Les podcasts d'Au Poste sont en libre accès et ceci grâce à vos dons. Soutenez la riposte sur auposte.fr.
Bonjour les opostiens et opostiennes, ou celles et ceux qui se sont perdus sur un lien, car Yann, mon invité du jour ou moi, avons posté un peu partout pour vous inviter à venir nous écouter ce matin. Et oui, c'est le matin, pour une fois qu'on voit ma tronche à 9h, je ne suis pas matinale, donc excusez-moi si mes mots se perdent dans la brume, enfin il n'y a pas du tout de brume d'ailleurs, mais bon, dans cette chaleur étouffante à Paris. Bienvenue dans ce 10e épisode de Bouffe de la saison 1, car c'est le dernier épisode de la saison, à part si David Dufresne change d'avis à la rentrée ou s'il se passe quelque chose d'encore plus énorme que ce qui se passe. On n'est pas à l'abri, évidemment, hein, qu'il se passe une dinguerie, comme on dit, puisqu'on est quand même en plein dedans. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver en direct et en chat. Je suis Nora Boisouni. Bonjour aux gens qui sont dans le chat. Merci. Alors, il y a Uriel qui est là. Je remercie Uriel comme d'habitude. Il y a Nayan qui s'occupe de réaliser l'émission aujourd'hui. Et puis, bah, bonjour. Je pense que c'est David hein, qui me dit matinale est magnifique. Je te remercie, David. Bonjour à tout le monde sur les rotules. Java Mulot, Valtina 60, Optimistique, tout ça. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Dadao 76 qui vient de procéder à un réabonnement parce que justement, j'allais le dire. Abonnez-vous. Et adonnez-vous, alors pour les gens qui n'ont pas encore le jargon opostien, adonnez-vous, ça veut dire faites un don, sortez la carte bleue ou le PayPal et la moula, et, ou alors proposez ça à quelqu'un, hein, évidemment, de votre entourage, qui ne paye peut-être pas assez d'impôts. D'ailleurs, on est en plein dedans, hein, l'Oise Zucman, etc., renseignez-vous dessus. Adonnez-vous, parce que Au Poste est un média indépendant et libre, et si vous voulez, et si on veut continuer à vous proposer des interviews et des vidéos de qualité, eh bien, il faut donner de l'argent, car l'indépendance, contrairement à la gentillesse, ça n'est pas gratuit. Notre sujet du jour, donc n'hésitez pas hein, à réagir, je vois déjà que vous êtes on fire. Ah, Blacky Nounours a proposé à Bernard Arnault de faire un don, il n'a pas répondu. Alors si quelqu'un a le 06 ou le 07 de Bébert, n'hésitez pas, hein, partagez, ça fait plaisir. Donc notre sujet du jour est raccord avec la saison. Oui, bah, j'ai bien sûr fait exprès car je ne suis pas qu'un physique, il y en a aussi là-dedans. L'été approche et nous voilà encore et toujours sommés de bien vouloir afficher un bikini body ferme et sans bourrelet, mais depuis quelques années, la quête de la minceur a ripolliné son image. Exit le gros mot régime. Bonjour au jeûne intermittent, bonjour au rééquilibrage alimentaire. On a des influenceuses body positive qui vantent les mérites de sous-vêtements gainants et des stars sous Ozempic hein, qui gonflent leurs revenus avec des tisanes miraculeuses et autres compléments alimentaires aussi chers qu'inefficaces, voire dangereux. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus les experts et expertes autoproclamés en nutrition ou en diététique qui proposent des menus parfaitement déséquilibrés ou qui diabolisent le sucre, le gras, dans des best-sellers internationaux. On va donner des noms, bien sûr, évidemment, on va en parler avec mon invité. Problème, les régimes, c'est un peu comme les applis de rencontre. Pour rencontrer quelqu'un de très sérieux, ça marche pas. Voilà, pas d'intérêt à ce que ça marche. Les femmes sont toujours aussi insatisfaites de leur silhouette. L'obésité augmente. On en parlera, c'est pas qu'une question d'alimentation. Les troubles des conduites alimentaires, anorexie, boulimie, hyperphagie, etc., ne régressent pas. Et pendant que nous, on compte les calories, l'industrie compte ses dollars parce que le marché mondial de la minceur pèse 224,7 milliards de dollars et devrait passer à 400 milliards d'ici 2030. Alors, à qui profitent vraiment les régimes? Eh bien, j'ai posé la question et d'autres questions à mon invité du jour que j'ai la joie de recevoir parce qu'on se suit depuis très très longtemps sur les réseaux. Depuis les années 2000, et voici Ariane Grumbach. Bonjour Ariane.
Bonjour Nora, bonjour à toutes et tous.
Je suis contente d'être là.
Ah, je suis absolument ravie d'être là et d'avoir le temps de parler de ce sujet qui me passionne.
Ben oui, je sais bien. Donc Ariane, tu es diététicienne, féministe, gourmande et anti-régime, c'est très important.
Voilà, on spoil.
Ouais, on spoil direct. Et là, hein, t'es membre référencé du GROS, G-R-O-S, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids aussi. Alors, avant de commencer, deux choses importantes. D'abord, on n'est évidemment pas ici pour juger les personnes qui veulent maigrir. Je le dis, c'est important, donc on n'est pas là pour stigmatiser quoi que ce soit. Et ensuite, je préviens les gens qui nous regardent et ou qui nous écoutent et que ça pourrait trigger, comme on dit. À un moment, on va parler des troubles des conduites alimentaires. Donc s'il y a des gens qui, voilà, pour qui ça fait quelque chose, on en parlera, donc soyez au courant. Si vous regardez les replays, bah, y aura un chapitrage à un moment, donc vous pourrez peut-être sauter cette partie-là. On va commencer, il y a du monde dans le chat, dis donc, c'est trop bien. Et oui, The 25 BAM, on se suit depuis un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas, c'est incroyable. L'époque des blogs, hein, l'époque des premiers pure players aussi, évidemment. Ma première question, Ariane, elle est simple et pas simple. Mais bon, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est qu'un régime ? Alors, par régime, j'entends régime amaigrissant, évidemment. C'est quoi un régime ?
Oui, bien sûr, parce que régime, le mot régime, il est un peu employé à toutes les sauces et on va mettre de côté ce qui est une façon de manger, genre régime végétarien ou des choses comme ça, qui sont des choix qui n'ont rien à voir avec la perte de poids. Bah, je dirais qu'un régime, c'est une façon de décider de contrôler son alimentation en vue de perdre du poids. Donc, contrôler, ça veut dire que la tête va décider, alors soit soi-même, soit en allant voir un spécialiste ou en lisant quelque chose dans un bouquin, un magazine, de contrôler son alimentation. Et en général, ça consiste à se fixer des règles, supprimer des aliments ou les minorer. Donc dire, je vais supprimer le gras, je vais supprimer le sucre, je vais supprimer les féculents. Ou se fixer des règles, je vais faire des repas tous équilibrés, en plus, en parlant en nutriments, je vais manger des protéines, des glucides, etc. Ou typiquement, le repas équilibré, protéines, légumes, féculents, laitages, fruits. Enfin, et c'est le principe, voilà, de définir une alimentation contrôlée par la tête et en vue de perdre du poids. Et donc, quand on emploie le mot régime, il y a aussi souvent l'idée que c'est temporaire. C'est-à-dire, on va se fixer un objectif de perte de poids ou d'un chiffre de poids qu'on veut atteindre, on va se fixer des règles ou on va se les faire donner et en vue d'atteindre cet objectif. Et puis après, on parlera de qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a atteint l'objectif.
Tout à fait. Et donc, on entend par régime amaigrissant forcément quelque chose de restrictif ou pas ? De contraignant ?
De contraignant, c'est-à-dire que ça va être restrictif dans le sens où on ne va pas manger de façon complètement libre et naturelle. On va forcément se fixer des règles. Alors, certaines personnes vont manger très sainement et pas forcément se dire que c'est restrictif. Mais il va quand même y avoir une part de contrôle et très souvent de culpabilité. C'est-à-dire, on va se fixer des règles, puis boum, on va au restaurant, on se lâche. Et donc, on va souvent culpabiliser de faire ça. Donc, il y a des personnes qui considèrent qu'elles mangent normalement, mais en fait, c'est restrictif. J'avais rencontré une fois par hasard une dame, donc on peut donner des noms, hein, qui faisait le régime Weight Watchers depuis 25 ans. Donc, ça faisait 25 ans qu'elle comptait les points Weight Watchers. Donc, ça occupe quand même beaucoup de place dans la tête.
Ça colonise l'esprit, quoi. C'est le comptage des calories.
Absolument, absolument. Wow. Mais donc, des fois, ça peut durer longtemps.
Effectivement, waouh, 25 ans. Ouais, bah justement, c'est très, très bonne transition pour la question suivante, parce que cette femme qui poursuivait un régime depuis 25 ans, donc qui payait, parce que Weight Watchers, on rappelle que c'est payant, c'est pour ça que je parlais des applis de rencontre, c'est-à-dire que sur les applis ou les programmes minceurs, il n'y a pas grand intérêt à ce que vous perdiez du poids durablement, parce que sinon, leur modèle économique s'effondre. Et on appelle ça le revolving door, du coup, les portes battantes, vous partez, vous rentrez, vous partez, vous rentrez. Donc justement, tu parlais de cette femme. Pourquoi, à 90-95% du temps, on dit que les régimes sont... Enfin, on dit... La presse féminine ne le dit pas. Mais les régimes sont largement inefficaces.
Voilà. Enfin, quand tu dis effectivement 90-95%, c'est le mot largement est un petit peu gentil. Et en fait, alors, ces chiffres-là, ils viennent de ce qu'on appelle une méta-étude, c'est-à-dire une étude qui a été faite il y a quelques années, qui a repris une grande partie des études existantes en prenant en compte plein de régimes différents et qui a conclu que, faute même du principe du régime. On va expliquer pourquoi. Donc, c'est ça le problème, c'est que y a beaucoup de culpabilité et de problèmes de se dire « Oh là là, je suis nulle, je manque de volonté » quand on ne réussit pas le régime, alors que c'est le principe même du régime qui fait que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas, en fait, pour deux raisons. Il y a vraiment un aspect psychologique et un aspect physiologique. L'aspect physiologique, c'est le principe. En fait, comme on disait juste avant, en général, on se met en restriction, c'est-à-dire on supprime des aliments ou on les minore. Et en fait, il y a un mécanisme corporel qui... Alors, ça paraît bizarre, hein, tellement le monde a changé, mais qui est préhistorique, c'est-à-dire que à la préhistoire, en fait, on alternait des phases d'abondance où on trouvait beaucoup à manger et des phases où on n'avait plus beaucoup à manger. Et donc, dans ces moments où on n'avait plus beaucoup à manger, le corps s'habituait en fait à modérer ses besoins. Et du coup, quand il y avait beaucoup à manger, il stockait. Et pour la prochaine phase de nourriture rare. Et donc, dans le principe du régime, c'est exactement ça qui se passe. Dans le mode, disons, restriction, le corps se dit, j'arrive quand même à fonctionner comme ça. Ce qui veut dire que quand on remange, ne serait-ce que comme avant le régime, le corps se dit, toute cette nourriture, je vais la stocker pour la prochaine fois parce qu'on va peut-être me repriver.
Ah, il se met en mode famine, quoi.
Il se met en mode stockage. Okay. C'est-à-dire, il se met en mode... finalement, comme j'ai réussi à vivre sans tout ce surplus qu'on me donne maintenant, je vais le stocker pour des temps plus difficiles. Donc il y a vraiment cet aspect physiologique, et c'est ça qui intervient dans le yo-yo où les personnes qui ont fait plein de régimes, elles se rendent compte qu'elles grossissent de plus en plus facilement parce que le corps s'est vraiment habitué à modérer ses besoins énergétiques. Donc ça, c'est l'aspect vraiment physiologique. Puis après, il y a un aspect psychologique, c'est-à-dire que après le régime, on a perdu du poids, donc on est content. Et au mieux, on remange comme avant, mais donc, comme je viens d'expliquer, on va reprendre un peu de poids. Et au pire, et c'est ce qui arrive quand même très souvent, on va se lâcher sur tout ce qu'on s'était interdit ou qu'on avait diminué. Je me rappelle par exemple d'une patiente qui, en plus, n'avait pas beaucoup de kilos à perdre et elle s'est lancée dans... un fameux régime qui est moins à la mode, le régime Ducamp.
Ducamp, ah là là, le fameux Ducamp. Et donc, vous expliquer en quoi ça consiste?
Le régime Ducamp, c'était un régime qui consistait à manger énormément de sources de protéines, donc beaucoup de viande et de poisson. Et au début, on mange évidemment pas de féculents, donc pas de pain, pas de riz, etc. Et même pas de fruits et légumes. Donc on mange du poisson, de la viande, des œufs, du fromage blanc 0%. Et puis... et donc du coup on avait même commercialisé ça, du son d'avoine.
Parce qu'il faut bien un peu de fibres quand même, hein. Sinon la constipation guette.
Et donc c'était un régime effectivement où on pouvait manger à volonté, mais que des sources de protéines. Et donc il y avait des pertes de poids spectaculaires, mais donc cette personne, donc elle avait perdu ses kilos. Et après, alors qu'elle mangeait à peu près normalement, elle se jetait sur les paquets de gâteaux, mais elle dévorait des paquets de gâteaux, ce qu'elle ne faisait pas avant, et elle était rentrée dans vraiment des compulsions qui n'existent pas avant. Donc, il y a cet aspect psychologique de sortir de la restriction et de se jeter sur la nourriture. Et puis, il y a un aspect aussi de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on se dit, mince, j'ai raté, je reprends du poids, je suis nulle. Donc, au fur et à mesure, parce que souvent... quand même, on recommence un autre régime et au fur et à mesure, on ne réussit pas. Et donc, ça mine vraiment l'estime de soi. C'est-à-dire qu'il y a toute une période, alors qui va durer plus ou moins longtemps chez les personnes, où on recommence, on se dit « cette fois, je vais y arriver » et on n'y arrive pas, puisque c'est le principe, c'est que ça ne marche pas. Et donc, de petit à petit, on se trouve de plus en plus nul. En plus, on est aussi dans un monde de la performance, de la volonté, où quand on veut, on peut, et qui est un truc complètement, complètement faux pour l'alimentation. Et donc, du coup, on se dit, mais pourquoi les autres y arrivent? Pourquoi moi, j'ai pas de volonté? Pourquoi moi, j'arrive pas à me discipliner?
Oui, la minceur, dans un de mes bouquins, j'avais écrit que c'était la méritocratie du corps, quoi.
Ah, mais c'est exactement ça. C'est vraiment cette question de discipline. Cette personne dont on disait, qui faisait Weight Watchers depuis 25 ans, où je me rappelle d'une personne qui est venue me voir, qui avait... 69, 70 ans, et qui avait été dans la restriction toute sa vie, mais tout à coup, elle avait découvert, des, je ne sais plus si c'était des perles de lait ou des gervita, enfin, un truc comme ça, et alors qu'elle mangeait que des trucs 0%, elle se dit, mais c'est vachement bon, en fait. Et donc, elle avait repris genre 3 kilos. Oh, catastrophe, quoi. Donc cette discipline, elle peut durer très longtemps. En fait, des fois, ça lâche, on s'arrête... à la fin de quand on a atteint son poids. Et puis il y a aussi le fait que Des fois, on s'arrête parce qu'il y a un événement de vie, c'est-à-dire on va réussir à contrôler pendant très longtemps et ça occupe quand même beaucoup d'espace mental. Ce qui veut dire qu'il va arriver un truc important dans la vie personnelle, professionnelle, et tout à coup, on n'a plus cet espace mental pour ça, et on va tout lâcher. Et des fois, il y a des reprises de poids, des fois très brutales, hein, de je sais pas, 15-20 kilos, parce que c'est toute cette période de restriction qui tout à coup lâche, et là, on se jette sur la nourriture.
Je vais juste, dans le chat, il y avait quelqu'un qui demandait si on allait parler du fameux médicament qui fait maigrir. Bien sûr
mais
qu'on
oui,
va en parler.
Mais oui.
Évidemment qu'on va en parler. Quelqu'un parlait, alors j'ai pas vu le message avant, de diététique, etc. Mais on parlera vraiment de plein de choses, donc n'hésitez pas à reposer des questions ou à recommenter si j'ai pas vu vos messages. Valtina60 qui dit « On interdit la pub pour la malbouffe et plus de problèmes d'obésité ». Eh ben, si seulement c'était si simple que ça, c'est ni la pub ni la malbouffe qui sont responsables à 100%. De l'obésité.
Et en fait, c'est ce qu'on commence, j'ai l'impression, un petit peu à comprendre, enfin, je dirais surtout dans le monde scientifique, parce que même pas politique, c'est que c'est complexe. C'est complexe, c'est multifactoriel, il ne faut surtout pas ni diaboliser les choses, ni culpabiliser les personnes. Donc, ce n'est pas aussi simple de on supprime la pub.
Et même si on supprimait la fast-food, ce n'est pas non plus forcément comme ça que les gens se nourriraient mieux, parce que si les gens ne se nourrissent pas comme il et elle aimeraient se nourrir, c'est aussi parce qu'ils n'en ont pas les moyens et qu'on ne leur donne pas les moyens. Et on a parlé beaucoup de ça dans les émissions précédentes. Puis il y a aussi des facteurs génétiques sur l'obésité. Et c'est pas pour rien que l'obésité touche principalement les classes populaires, notamment
absolument.
Les femmes des classes populaires.
J'ai fait une dernière newsletter sur... toi, t'as écrit des livres, t'as écrit un dernier livre, enfin un avant-dernier livre là-dessus, hein, Manger les riches, mais sur effectivement, sur la question de qui peut bien manger et où j'essaye d'inverser les choses, c'est pas... quand on veut, on peut, mais plutôt quand on peut, on veut. Et donc, il y a vraiment des aspects d'argent, de temps, d'accessibilité à la nourriture, dont parle Karine Jacquemart, que tu as reçu.
Ouais, dans le tout premier épisode de Bouffe de là. Je salue aussi Marie-Pierre Membrive, qui nous dit merci d'avoir invité la géniale Ariane Grumbach. Et bien, merci Marie-Pierre d'être là. Oui, on va parler du jeûne aussi, BC Fablaka, on va en parler. Tu parlais justement des dangers des régimes, des dangers d'une reprise de poids aussi, de ce cercle vicieux que tu décrivais. Et tu parlais aussi au niveau santé mentale, de ce que ça peut faire. Donc c'est quoi les dangers des régimes? Et après on parlera aussi des dangers d'une perte de poids rapide, comme on voit avec perdre 5 kilos avant l'été et compagnie. Mais alors d'abord déjà, les dangers que tu avais un peu évoqués des régimes restrictifs, amaigrissants, qu'est-ce que c'est?
Bah alors, donc, il y a ces dangers dont je parlais de reprise de poids. C'est-à-dire qu'il y a quand même, moi, je vois beaucoup de personnes grosses qui me disent, mais quand je revois les photos, j'étais pas grosse au départ. Donc, il y a des personnes qui arrivent dans l'obésité, malheureusement, par cette spirale des régimes. Donc, il y a tout cet aspect de prise de poids, alors qui est pas grave, mais qui souvent quand même rend la personne malheureuse et inconfortable. Oui, pour juste une parenthèse par rapport à ce que tu disais dans ton introduction, moi je suis pour la liberté. Donc que chaque personne peut décider pour elle, en essayant quand même de se détacher peut-être des standards de beauté, de si elle a envie de retrouver un poids où elle se sente bien ou d'accepter son poids. Donc il y a un danger psychologique et physique. On parlait de la reprise de poids, il y a aussi un danger de la spirale de perte de poids. Donc, par exemple, si on prend la question de l'anorexie, c'est là aussi un sujet très complexe, mais il y a des personnes qui vont tomber dans l'anorexie parce qu'il y a cette euphorie de la perte de poids et ça, des personnes qui étaient un petit peu rondes dans l'adolescence et qui commencent à se restreindre, à manger presque rien, et elles perdent du poids vite. Et c'est génial, des personnes qui ont peut-être jamais été minces de leur vie, tout à coup elles sont minces. Et là, il y a une espèce de spirale d'engrenage qui fait qu'on mange de moins en moins et on tombe dans un comportement anorexique dont après, il est extrêmement difficile de sortir parce qu'on est après dans une espèce de terreur de reprendre du poids.
Oui, c'est une pathologie, on le rappelle, une maladie qu'on peut traîner toute sa vie. Je connais beaucoup de femmes qui, toute leur vie, seront malades.
Donc, il y a cet aspect-là. Y a
donc,
aussi...
tu veux dire que premier danger, ce serait développer des troubles des conduites alimentaires.
Tout à fait, parce que l'anorexie, où après on parlait des compulsions, c'est-à-dire que l'interdiction de certains aliments, la restriction du régime, la diabolisation des aliments fait que On peut développer des questions d'hyperphagie, de se jeter sur la nourriture. Autre trouble, la boulimie, hein, c'est-à-dire qu'il y a, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut pas être dans le contrôle permanent. Donc on va rentrer des fois dans une espèce de contrôle qui va tenir, et puis tout à coup, on va se jeter sur la nourriture parce qu'on n'en peut plus de se contrôler, de s'interdire des aliments, parce qu'il faut avoir en tête que plus on s'interdit quelque chose, plus on va y penser, ça peut devenir obsessionnel. Et donc, on peut tomber dans un comportement boulimique, alors soit l'hyperphagie, c'est-à-dire manger vraiment beaucoup, avoir des crises où on mange vraiment beaucoup, beaucoup, ou la boulimie où on se fait vomir, ou parce que... Il y a quand même, une fois qu'on a fait un régime, cette idée qui présidait au régime, qu'on veut vraiment contrôler son poids. Et donc, il y a vraiment cette peur de grossir. Et donc, du coup, des fois, il y a l'affectement. Et qui peut. Moi, j'ai vu des femmes qui faisaient ça depuis des années avec une obsession mentale, une honte, c'est-à-dire de chercher toujours à se cacher, à manger beaucoup en se cachant, à aller vomir en se cachant, parce qu'il y a à la fois l'impossibilité de se retenir, de faire des crises, et en même temps l'obsession de ne pas grossir. Un autre danger, puisque c'est de passer un peu d'un contrôle à un autre, c'est-à-dire... on n'est plus dans le régime, mais on est dans l'obsession de manger sainement, enfin, qui est liée aussi à tout un contexte, effectivement, de diabolisation de la bouffe industrielle.
C'est l'orthorexie, d'ailleurs, Harry Manneffer nous parle. Alors, ce n'est pas considéré comme un trouble des conduites alimentaires officiellement, on va dire.
Disons, voilà, il y a un questionnaire qui existe en ligne avec quelques questions pour savoir si on souffre d'orthorexie, mais c'est pas encore défini dans le DSM, qui est un peu
le manuel de diagnostic,
le manuel de définition des maladies mentales. L'orthorexie, c'est l'obsession de manger sain, c'est-à-dire qu'on va vouloir avoir une alimentation totalement pure, et qui est, elle, un danger là aussi, de devenir complètement obsessionnel et de se désociabiliser complètement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut contrôler toute son alimentation, on ne peut plus aller chez des amis, on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus manger à l'extérieur. Donc ça entraîne un repli sur soi qui là aussi est terrible et en général ne peut pas durer éternellement.
Oui, donc on a, comme tu disais, donc ce qu'on appelle les TCA, donc troubles du comportement alimentaire, perte de sociabilité. Tu parlais aussi tout à l'heure quand même d'une forme de dépression, en tout cas de très grosse déprime, si c'est pas de la dépression, comme tu le disais, culpabiliser, se dire c'est de ma faute si je n'y arrive pas, j'ai regrossi, je ne maigris pas suffisamment vite, etc.
Quelque chose qui est vraiment présent, qui est l'envahissement mental, c'est-à-dire de ne penser qu'à ça. Et j'ai des personnes qui me disent ça, c'est-à-dire elles se lèvent le matin, elles disent je vais faire attention, je vais manger, je vais bien manger, je vais faire attention, je vais me discipliner, et elles y pensent toute la journée, donc ce qui veut dire que ça laisse pas beaucoup de place pour le reste.
Et pour le reste, et pour se rebeller, et pour cramer le patriarcat, par exemple.
Absolument.
Tu viens d'évoquer ça, ça me fait penser à ces magazines qui disent maigrissez sans y penser. Enfin, je veux dire, en fait, quand on est au régime, on pense qu'à ça, comme tu le disais, un peu en permanence, quoi.
Oui, alors en même temps, donc je suis totalement contre les régimes et pour la liberté, mais ce que j'observe et que me racontent des fois des patientes, puisque moi j'ai une démarche qui est un peu plus durable mais complexe, c'est que le régime, finalement, c'est facile. Surtout le régime où on te dit quoi manger. Tu vas avoir un nutritionniste, un diététicien, il te donne une feuille en disant, voilà, il faut manger 100 grammes de poisson, 30 grammes de ci, etc. Et ça, c'est reposant, en fait. Et donc, suffisamment, tu le fais, sauf que ça va tenir un temps et ça peut pas être toute la vie comme ça.
Mais on peut décider pour toi toute ta vie.
Il y a un côté quand même reposant du régime hyper cadré, et où justement, on n'a pas à penser. Et ça, c'est... Des fois, on n'a pas envie de penser. Justement.
Bien
sûr. Je veux dire, après, bon, on va en parler. Il y a une telle charge mentale, ouais. Quoi, que de dire... Si en plus, il faut réfléchir à la nourriture, qu'est-ce que je vais manger, etc., ça rajoute...
Il y a Schizokish qui dit il y a aussi une autodiscipline qui fait presque peur, qui empêche selon moi les moments de bonheur. C'est ce que tu décris, justement, qui empêche de sortir, qui empêche d'avoir du plaisir quand on mange.
Qui va soit faire qu'on va se limiter, hein, des personnes qui vont dire « je m'interdis d'aller au restaurant », Beaucoup de femmes qui, par exemple, ne mangent pas comme leur conjoint, c'est-à-dire le conjoint il a envie de manger des féculents, ben non, moi je vais me faire des légumes ou je vais manger une petite salade, ou qui s'interdisent. J'ai déjà vu des personnes qui ne mangeaient plus de pâtisserie depuis 15 ou 20 ans. Donc après, ça devient une espèce de deuxième nature, hein, d'habitude. Et donc,
Même du déni. Hein. Moi, il y a des gens qui me disent « mais j'ai jamais aimé les frites ». Mais j'ai jamais aimé le chocolat. Et moi, je suis là. Si, quand on s'est connus à 25 ans, t'étais. Voilà. Mais donc, il y a vraiment une espèce de déni. Cognitivement, c'est compliqué. Quoi.
Non, mais voilà, vraiment d'y penser tout le temps et de consacrer beaucoup, beaucoup d'énergie mentale à ça. Et alors, après, tu voulais parler de la perte de poids rapide.
Oui, les pertes de poids rapide, c'est quoi le risque des gens qui disent c'est bon, j'ai perdu 5 kilos en deux semaines, 10 kilos en
plus,
un mois, etc.
C'est plus un danger, je dirais, nutritionnel, c'est-à-dire que on a quand même besoin des nutriments que va apporter une alimentation variée. Donc, si on mange que de la soupe aux choux, enfin que des pommes,
des monodiètes après,
ou même une alimentation qui est
que de la viande,
qui est très très limitée en type d'aliments, et ben on va se dire, alors le régime du camp. Il a présenté d'autres problèmes. Il y a des gens qui ont vraiment eu des problèmes digestifs, des problèmes rénaux liés à l'excès de protéines. Enfin, il y a eu vraiment des problèmes assez graves avec le régime du camp. Mais par exemple, la soupe aux choux, c'était très à la mode à une époque. Mais voilà, de manger effectivement une alimentation hyper pauvre. Alors, je dirais qu'on n'a pas de... Si ça dure une semaine, on n'a pas vraiment de risque de carence, mais souvent, les personnes, elles vont faire ça quand même à répétition parce qu'elles se disent que c'est le seul truc qui marche. Mmh. Donc, au fur et à mesure, on peut quand même effectivement avoir moins de carence. Puis, avoir vraiment des problèmes digestifs, divers problèmes physiques. Donc, il y a vraiment...
Il y a un danger, quoi.
Il y a un danger parce qu'en fait, le problème, c'est pas tant de maigrir, en fait, ces régimes, ils permettent de maigrir. Donc, la question, c'est pas ça, c'est que qu'est-ce qui se passe après en termes de santé, en termes de reprise de poids, en termes psychologiques.
Oui, ils ont un l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on perd 10 kilos en deux mois, bonjour l'effet rebond quand on recommence à manger derrière.
Exactement.
Hector Rincop demande, que pensez-vous des méthodes style glucose goddess, un scam? On en parlera évidemment de glucose goddess, vous pensez bien, on va pas se priver.
Tout à fait, juste auto-promotion, j'avais fait, j'ai une newsletter et j'avais fait...
Quelqu'un d'ailleurs dans le chat dit que Eucalyptus dit qu'elle te suit ou qu'il te suit depuis très longtemps, ta newsletter, etc.
Voilà. Et donc j'avais fait une newsletter où j'analysais vraiment en détail le bouquin de glucose goddess, voilà, pour ne pas en dire que du mal, mais essayer d'avoir un avis équilibré.
Qu'est-ce que c'est cette merde encore? Quel enfer. Voilà, vous allez voir, on va quand même plutôt dans ce sens-là. On n'est pas, on va pas encenser. Bah,
non, mais juste,
il doit être cette goddess.
Par rapport à ce que disait Nora tout à l'heure, hein, glucose goddess qui veut votre bien. Elle a quand même mis en place des formations très très chères pour former à sa méthode, des compléments alimentaires aussi vendus très chers, donc c'est clair que c'est un beau business.
C'est un business. Est-ce que quelqu'un, parce que tu parlais tout à l'heure de ça, mais est-ce que quelqu'un qui dit « je fais attention », parce qu'on entend quand même souvent cette phrase, vu que le régime c'est un peu devenu un gros mot, on va en parler juste après, mais est-ce que quelqu'un qui dit « je fais attention », c'est quelqu'un qui fait un régime ? Ou qui est en mode régime?
Alors, qui est en mode contrôle, en tout cas. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le régime, c'est souvent assimilé à quelque chose de provisoire. Je me fixe un objectif de perdre 10 kilos, j'ai perdu 10 kilos, j'en sors. Alors que je fais attention, c'est plutôt un mode permanent, mais qui est quand même un mode de contrôle où on va avoir quand même beaucoup de pensées par rapport à la nourriture. Comme je disais tout à l'heure, pas forcément manger exactement comme les autres, culpabiliser si on a mangé une part de gâteau au chocolat. Donc c'est quelque chose quand même où la tête va avoir beaucoup de pensées autour du contrôle alimentaire. Donc, c'est pas complètement tranquille et naturel.
J'ai découvert une expression qui s'appelle la restriction cognitive. Mmh. Et donc, c'est manger à condition de. C'est-à-dire manger, je vais manger ça, mais Après, je fais 2 heures de jogging. Mmh. Je vais manger ça, mais après, plus de frites ou plus de sucre pendant une semaine, quoi.
Tout à fait. Hein. La restriction cognitive, c'est un peu ce que je disais, c'est cette espèce de contrôle mental quand même restrictif dans le sens où on mange pas complètement de tout tranquillement et qui où le sport peut intervenir. Hein. C'est-à-dire que comme il y a beaucoup de culpabilité, ben il faut forcément une compensation.
C'est du marchandage avec soi-même.
Exactement. Alors que le sport, c'est pas le sujet du jour, ça doit aussi être quelque chose qui intègre une notion de bien-être, de plaisir, de se sentir bien et pas de perte de calories.
Il y a donc une nouvelle typologie de non-régime. Donc, on va en parler, je vais te poser des questions parce que, hormis le « je fais attention », hormis les monodiètes dont on va parler, hormis les compléments alimentaires, les coupes fins, l'Ozempic et compagnie, il y a quand même des termes qu'on n'avait pas vus avant et qui, depuis, il me semble, une dizaine d'années, voilà, un peu plus pour certains, sont partout pour ne pas dire le mot « régime » ou bien peut-être que je me trompe et que ce ne sont pas du tout des régimes. Donc, 3 questions pour toi. D'abord, qu'est-ce que c'est le jeûne intermittent et est-ce que ça peut être considéré comme une forme de régime amaigrissant ?
Alors, c'est complexe parce que c'est tout. Alors, il y a une chose que je devrais dire qui est essentielle si vous devenez retenir que ça, c'est que on est tous et toutes différents. Le jeûne intermittent, ça consiste à ne pas manger pendant 16 heures, c'est-à-dire d'avoir son alimentation qui est concentré sur 8 heures de temps et pendant 16 heures, on ne mange pas. Donc, ça consiste à soit supprimer le dîner, en gros, ou la plupart du temps, supprimer le petit déjeuner. Et en fait, ça n'est pas présenté comme un régime. En fait, c'est ce que tu disais, il y a des nouveaux habillages. Donc, c'est présenté comme surtout quelque chose qui est bon pour la santé. Mais dès que tu regardes, tu creuses un tout petit peu, ce qui est derrière, c'est vraiment la perte de poids, puisque c'est ça l'obsession de tout le monde, perdre du poids, être mince. Et donc, si, en fait, quand c'est, on peut pas tout à fait dire que c'est un régime. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui découvrent ça parce que c'est hyper à la mode et qui se disent, mais finalement, j'ai pas faim le matin. Alors que les chers nutritionnistes, pendant des années, ont dit le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et donc maintenant, on dit bah non.
T'avais interviewé d'ailleurs sur les céréales du petit-déj pour mon ancien podcast Plan Culinaire.
Absolument. Très bon podcast.
Merci.
Et donc maintenant, il y a des gens qui se disent mais finalement, j'ai pas faim le matin. Ce qui est naturel pour plein de personnes, je dis on est tous différents, de pas avoir faim le matin et donc de ne pas manger. Et à ce moment-là, si on mange, je sais pas, à 12h et à 19h, ben on a tenu longtemps. Sauf que, y a des personnes qui ont faim le matin et donc qui se forcent à ne pas manger et qui sont mortes de faim et qui peut-être à 10h30, 11h vont se jeter sur quelque chose. Donc,
on
est tous différents. Donc, moi, je suis pour l'expérimentation. C'est-à-dire, éventuellement, essayer de voir quand est-ce qu'on a faim et dire, effectivement, si j'ai pas faim, peut-être je peux pas manger. Mais je dis un peu en riant aux gens, est-ce qu'on a besoin d'appeler ça le jeûne intermittent, quoi ? Après, sur l'aspect perte de poids, ce qui compte, c'est la quantité globale que vous mangez sur la journée. Donc, évidemment, que si vous supprimez un repas et que vous ne mangez pas plus, vous allez perdre du poids. Si vous mangez...
C'est une logique comptable.
C'est une logique comptable. Si vous mangez plus le soir par peur d'avoir faim et de tenir à tout prix, vous n'allez pas forcément perdre. Et tous les arguments santé qui sont mis en avant, moi, je n'ai pas trouvé vraiment de sérieux scientifique très fort sur le fait que c'était mieux de jeûner 12 heures. Parce qu'en fait, normalement, on jeûne à peu près 12 heures, en fait, entre le dîner et le petit déjeuner. Donc, c'est ça qui est important, en fait. C'est d'avoir un temps de repos de l'organisme, un temps où on ne mange pas. Et le fait de jeûner 16 heures au lieu de 12 heures, il n'y a pas, a priori, de vraiment bénéfice à le faire, en tout cas, dans l'état actuel des connaissances.
Voilà, pour les gens qui sont intéressés par la question du jeûne tout court, il y a plein de ressources, pas sérieuses et sérieuses, sur le web. Faites attention aussi, vraiment, et si vous voulez faire un jeûne tout court, il faut vraiment que ce soit encadré.
C'est plutôt, faites pas ça tout seul chez vous.
Ne faites pas ça tout seul, c'est vraiment important de le dire, parce que ça peut être vraiment très dangereux.
Juste, petite parenthèse, pas le faire pour perdre du poids, parce qu'évidemment que quand on jeûne, on perd du poids, et après, on le reprend.
À Skip, ça soigne le cancer d'après Internet, nous dit Flo13271. Oui, après, il paraît que les jus de fruits, ça soigne le cancer, que manger cru soigne les cancers. bien sûr.
Il y a des gens qui sont qui ont été accusés, enfin jugés pour ça. Enfin, il y a un fameux monsieur qui s'appelle Thierry Casasnovas.
Et oui, bien sûr. Bah oui, c'est aussi parce que bah, les gens qui arrêtent leur traitement parce qu'on leur dit c'est mauvais pour la santé de faire de la chimio, de la radiothérapie, mais bois du jus vert. Ça s'appelle à la fois des escrocs, des gourous et des criminels. Hein, voilà, je le dis. Donc on a parlé de jeûne intermittent. Je vais passer. On va faire le rééquilibrage après, mais parce que justement, l'alimentation intuitive, j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que tu disais sur s'écouter. Est-ce que si j'ai faim le matin, je mange pas? Si j'ai pas, et si j'ai faim, bah, je mange quoi? Donc, alors, alimentation intuitive et manger en pleine conscience.
Ouais. Alors, moi, je peux dire que je pratique un peu l'alimentation intuitive, mais on met tellement de choses derrière tout ça que c'est devenu un concept un peu fumeux. Donc, je sais pas si je dois vraiment m'en réclamer. Après, effectivement, moi, j'aurais tendance à parler plutôt de façon de manger un petit peu naturelle, c'est-à-dire effectivement un peu régulée. C'est-à-dire que normalement, quand on est un enfant, ben, on mange quand on a faim, on sait s'arrêter. Donc c'est un peu, voilà, c'est intuitif. Donc effectivement, on peut parler d'alimentation intuitive. Et puis, il y a un aspect qui est aussi se faire confiance, manger de tout, c'est-à-dire intuitivement. Ce que j'explique aux gens hein, qui ont peur, par exemple, de, je sais pas, réintroduire des frites ou des pizzas dans leur alimentation, je dis mais... Moi, faites-vous confiance. Est-ce que vous allez avoir envie de manger des pizzas tous les jours? Et il y a un aspect un peu intuitif que...
Parfois.
Ben, pourquoi pas pendant 3 jours? Puis tu vas voir que, effectivement, au bout d'un moment, tu vas peut-être avoir envie d'un peu de salade. Donc, il y a cet aspect aussi intuitif qui, alors, qui marche aussi dans le fait de la diversité alimentaire, hein, on n'a pas besoin que chaque repas soit équilibré. On a besoin d'une diversité globale. Mais, qui vient quand même de l'éducation, c'est-à-dire que on peut pas avoir envie de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, par exemple, si on prend un exemple un peu extrême, aux États-Unis, il y a quand même majoritairement une alimentation très industrielle, etc. Pas beaucoup de fruits et légumes. Bah, on peut pas avoir envie de manger effectivement des fruits ou des légumes qu'on ne connaît pas. Donc, mais si on a eu un peu d'éducation alimentaire, si on est régulé, ben voilà, on peut manger de façon un petit peu intuitive, c'est-à-dire de façon voilà un petit peu naturelle.
Évidemment, ça marche pas quand on souffre de troubles des conduites alimentaires.
Absolument,
mais là, il y a autre chose quoi.
Enfin, on retrouve pas forcément ça naturellement. Il faut passer peut-être par une phase d'un peu plus de conscience. L'alimentation. Alors moi j'aime pas l'expression pleine conscience.
Oui moi non plus. Mais je sais que t'aimes pas. C'est pas que je te pose la question.
Mais je dirais que après manger avec attention, c'est important parce que l'idée c'est de. Alors sans que ça devienne obsessionnel et dans 100% des cas, ce qui est important c'est de profiter de ce qu'on mange. C'est-à-dire que manger quelque chose dont on a envie. Et en profiter, bah, ça veut dire qu'on va avoir une satisfaction et on va pouvoir passer à autre chose. Donc c'est vrai que c'est bien, surtout quand on mange quelque chose de bon, la plupart du temps, ou quelque chose qui a été cuisiné, d'y mettre un petit peu d'attention. Donc c'est pas forcément de la pleine conscience, mais voilà, c'est de mettre un peu d'attention à ce qu'on mange pour en retirer du plaisir.
Et alors l'alimentation intuitive, c'est pareil que manger en pleine conscience, quoi. On peut en rappeler...
On peut manger de façon intuitive et puis pas faire attention à ce qu'on mange. Enfin, c'est des choses un petit peu complémentaires. Mais disons que j'aime pas trop ces mots. Enfin, de fixer des. C'est complexe l'alimentation. Donc, mettre des étiquettes, c'est pas ça. Ça devient tout de suite quelque chose d'un petit peu normé,
c'est
cadré.
Un peu réducteur, quoi.
C'est un petit peu réducteur.
Sur cette nouvelle typologie de non-régime, il y a le fameux. Et alors ça vraiment, mais j'entends toutes mes copines beaucoup en parler, surtout des femmes du coup, le fameux rééquilibrage alimentaire. Est-ce que tu peux nous parler du rééquilibrage alimentaire, Ariane ?
Eh bien alors, le principe du rééquilibrage, c'est qu'on mangeait de façon déséquilibrée. Alors, déjà vérifier que ce soit vrai. Et puis puisque les personnes qui parlent de ça sont en général pas les personnes qui mangent déjà le plus mal au départ. Et donc on va rééquilibrer ça. Mais alors... Effectivement, comme tu dis, c'est pour pas parler de régime, mais ça, en général, et j'ai beaucoup de collègues diététiennes qui proposent ça, ça reste quand même une alimentation où on va manger de façon quand même un peu strictement équilibrée, de façon un peu rigoureuse, avec des repas équilibrés. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui sont quand même dans quelque chose qu'elles appellent rééquilibrage, mais où c'est quand même assez cadré. Alors que donc, ce que je disais tout à l'heure, hein, l'équilibre nutritionnel, il est dans la durée. L'important, c'est d'avoir de la variété globale sur une semaine, 10 jours, et pas que chaque repas soit équilibré. Moi, j'entends un peu ça quand même dans rééquilibrage alimentaire.
Donc toi, les gens qui souhaiteraient faire un rééquilibrage alimentaire, est-ce que tu as des conseils à leur donner? Est-ce que tu as des avertissements, des points de vigilance?
Voilà, de pas penser que chaque repas soit équilibré, parce que ça met des contraintes et de la culpabilité dès qu'on mange pas équilibré. Parce qu'il y a, en fait, il y a quelque chose dont on n'a pas tout à fait parlé, qui est une personne qui a fait des régimes, elle est souvent dans un mode tout ou rien. Et donc, quand elle est dans un rééquilibrage alimentaire et que tout à coup, elle va manger un truc qui ne rentre pas dans le rééquilibrage, elle va se dire, j'ai fait n'importe quoi, donc autant y aller. L'expression que j'entends beaucoup, foutu pour foutu. Donc, dès qu'on est dans une alimentation un peu contrôlée et qu'on lâche, il y a aussi... c'est quand même un peu genré, cette question de l'alimentation.
Légèrement.
Tu connais bien le sujet. Et donc, il y a quand même aussi, chez un certain nombre de femmes, beaucoup de perfectionnisme qui se matérialise aussi dans la question de l'alimentation. Et donc, qui va dire qu'on veut manger parfaitement, on veut manger de façon hyper équilibrée. Et donc, dès qu'on sort de ça, on va un petit peu tout lâcher. Donc, je vois un petit peu ça comme risque aussi dans le rééquilibrage.
Et puis, la charge mentale que tu as un petit peu évoquée, c'est-à-dire, on sait que dans les ménages hétérosexuels, c'est à plus de 80% les femmes qui font les repas du quotidien. Et donc, il y a une charge à la fois mentale, mais aussi une charge, on va dire, nutritionnelle, diététique, pour nourrir tout le monde comme il faudrait, en suivant les injonctions, 5 fruits et légumes par jour, etc., et l'écologie.
Et les enfants, c'est-à-dire surtout bien élever mes enfants, leur donner une bonne alimentation et toute la charge, effectivement, comme tu dis, qui rejaillit beaucoup sur la femme et qui, des fois, peut durer jusqu'à ce que les enfants soient très grands ou on continue à vouloir leur faire des repas équilibrés pour prendre soin d'eux.
On parlera un peu de ça, justement, aussi, des enfants et de la nourriture quand on est parent. Skizoki, je demande, par rapport à ce que tu disais juste avant, donc, est-ce qu'on peut manger que des légumes le midi et que des pâtes le soir? Puisque tu disais, les repas n'ont pas besoin d'être tous forcément équilibrés avec la part de prot, la part de légumes et tout.
Alors, je dirais par rapport à ce que je disais, en théorie, oui. Après, il y a aussi le fait qu'un repas doit rassasier, un repas doit donner de l'énergie, un repas doit permettre d'avoir suffisamment de nourriture et d'énergie pour tenir jusqu'au repas d'après. Donc, pourquoi pas manger des légumes le midi? Il faut vérifier que ça vous rassasie. Les légumes, c'est quand même 90% d'eau. Oui. Donc, c'est pas très nourrissant. Donc, en général, manger que des légumes le midi. Alors, on va en manger beaucoup, beaucoup pour essayer de se sentir calé. Mais en fait, on va avoir une sensation trompeuse de ventre plein parce qu'on va manger une énorme salade, une énorme quantité de courgettes, d'haricots verts, etc. Et sauf que comme c'est très peu nourrissant, on va avoir faim deux heures après. Mais moi, je ne suis pas dogmatique. Donc, pourquoi pas expérimenter? Je suis vraiment, vraiment pour... expérimenter sur vous, c'est parce qu'on entend beaucoup de choses et c'est vraiment, moi c'est le travail que je fais, c'est d'essayer de redonner confiance à la personne, donc pourquoi pas manger des légumes le midi et des pâtes le soir. Faites l'expérience sur vous pour voir si ça vous convient.
Parce que je pense que des légumes au niveau glucides et énergie, ça va être compliqué pour tenir tout l'après-midi.
C'est clair.
Je vais te faire un petit vrai ou faux. Alors, plus ou moins rapide, évidemment, tu peux développer, c'est le but aussi. Mais il y a beaucoup de questions. Et pour les opostiens et opostiennes qui avaient regardé l'épisode sur l'antispécisme avec les formidables Victor Durand, Le Puck et Brigitte Gauthier de L214, je leur avais fait aussi un truc comme ça pour un peu débunker, pour avoir un peu une boîte à outils, des contre-arguments que les gens qui méprisent les véganes et les antispécistes ont. Donc, je vais te poser des questions en mode idée reçue. Donc tu vas me dire vrai ou faux, évidemment il y a des nuances, mais si vraiment tu dis vrai, point, on passe à la suivante. On a tous et toutes un poids de forme, vrai ou faux?
Vrai, alors qu'on appelle poids d'équilibre, poids naturel, alors c'est vrai, c'est notre poids naturel, après il peut bouger, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir développer ça sur les cellules graisseuses, qu'est-ce qui se passe quand on fait un régime, quand on perd du poids, quand on en reprend, et donc ce poids... il peut bouger dans la vie. Si on a beaucoup de variations de poids, il y a un moment donné où notre poids d'équilibre, notre poids de forme qui était peut-être à 60 ou 70 kilos au départ, il peut se situer à un autre niveau, mais on a tous effectivement un poids d'équilibre.
C'est-à-dire que malgré les régimes qu'on peut faire amaigrissant, le corps, il va essayer quand même de se rapprocher, quand on reprend une alimentation normale, de se rapprocher de ce poids-là, et que malheureusement, on n'est pas tous et toutes égaux, égales devant la nature.
Ce qu'on appelle le set point en anglais, enfin ce poids d'équilibre, simplement il peut bouger, c'est-à-dire que peut-être qu'avec des petites variations, je revenais naturellement au bout de 60 kilos, mais... avec ces variations qui... En fait, quand on regrossit et qu'on stocke, comme on disait tout à l'heure, il y a un remplissage, une multiplication de nos cellules adipeuses, hein, de notre masse grasse. Et donc, il y a un moment donné où, pour certaines personnes, on ne comprend pas tout encore à tout ça, ben, on ne va pas revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on va avoir un nouveau poids d'équilibre qui va se situer à un autre endroit et on va naviguer autour de ce poids-là, du coup, de peut-être 80 kilos et plus 65, 70.
Dac. Bonjour aux gens qui nous ont rejoints et merci beaucoup de nous suivre. Deuxième question. Les pâtes et le pain, ça fait grossir?
Non. Aucun aliment ne fait grossir en soi. C'est l'excès général qui fait grossir.
Très bien. L'indice glycémique. Donc c'est là qu'on va pouvoir parler de glucose goddess. L'indice glycémique, c'est l'alpha et l'oméga. Tout doit tourner autour de l'indice glycémique. C'est crucial, c'est essentiel.
Non, alors en plus, l'indice glycémique, c'est la vitesse à laquelle le sucre d'un aliment va pénétrer dans le sang. Donc, on parle beaucoup d'IG bas, hein, c'est-à-dire index glycémique bas, c'est-à-dire quelque chose qui va pénétrer lentement dans le sang et donc pas faire un pic de glycémie. Hein. Si on mange quelque chose de très sucré, ça c'est une réalité, hein. C'est pour ça que tout n'est pas mauvais dans ce que dit Glucose Goddess, bah, on va avoir un pic de sucre, c'est-à-dire qu'on mange quelque chose de très sucré, bah, y a le sucre qui arrive dans notre sang et qui nous fait un pic de sucre. Et le résultat fréquent de ça, c'est que bah, quand ça monte très vite, ça redescend très vite et on a ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. Et donc si on a mangé... C'est pas vrai pour tout le monde, mais c'est assez courant. Bah, si on mange une tartine de confiture le matin, bah, peut-être qu'à 10h30, on a faim parce que ça ne nous a pas rassasiés. Après, les études les plus récentes, parce que moi, je continue à m'informer, montrent que l'index glycémique, c'est quand même une notion pas assez complexe, parce que d'abord, on mange souvent plusieurs aliments à la fois. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'index glycémique des différents aliments? Ça change la digestion. Et puis, il y a vraiment, par rapport au type d'aliment, à la façon de digérer le sucre, l'amidon qu'il y a dans les féculents, il y a vraiment des choses très complexes qui se passent au niveau digestif, qui sont plus complexes que la pure question de l'index glycémique. Ceci dit, là aussi, il faut expérimenter. C'est bien d'essayer de ne pas faire des repas trop sucrés, de vous observer. Et alors, quand je dis on est tous différents, un exemple. La pomme, la fameuse pomme des régimes. La pomme, bah, c'est... pour résumer, du sucre et des fibres et de l'eau. Et ben, pour certaines personnes, elles vont manger une pomme et ça va les rassasier, ça va être un super encas parce qu'il y a des fibres et ça les fait tenir. Et pour d'autres personnes, parce que la glycémie c'est différent pour chaque personne, et ben, elles vont manger une pomme et ça leur fait un pic de sucre et elles vont dire, ah ben, j'ai encore plus faim après la pomme. Et d'ailleurs, Glucose Goddess, dans son fameux livre que je ne vous recommande pas d'acheter, à la fin, elle se tire une balle dans le pied puisqu'elle est une obsédée de mesurer sa glycémie avec un capteur, elle mange la même chose que sa copine et elles ont une glycémie complètement différente. Donc c'est...
Voilà. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur Glucose Goddess, puisque justement tu avais consacré une newsletter à ça, parce qu'il y a des gens qui attendent dans le chat aussi qu'on en parle, et moi ça m'intéresse,
en fait,
évidemment.
Ce qui est très rapidement, positif dans son livre, c'est que alors, elle dit des choses qui étaient connues, mais qui n'étaient peut-être pas assez largement diffusées dans le grand public, et qu'elle dit de façon assez claire sur cette question, effectivement, du fonctionnement de la glycémie, de comment notre corps réagit par rapport aux aliments. Donc, il y a un côté pédagogique qui est intéressant et qui, effectivement, moi, ce que j'explique souvent, manger, effectivement... je ne sais pas, par exemple, un pain de mie très blanc et de la confiture, ben, c'est peut-être pas le meilleur petit déjeuner. Hein, mais, mais là encore, expérimenter sur vous. Donc, elle dit des choses très pertinentes sur cette question de la gestion du sucre. Mais après, elle rentre. Et là aussi, il y a toujours un habillage santé... c'est pour votre santé, c'est pas que pour le poids, alors qu'en fait c'est pour le poids, des règles de il faut manger les légumes avant les féculents, faut boire une cuillère à soupe de vinaigre de cidre avant, faut faire ci, enfin des règles qui sont très strictes, mais pourquoi pas expérimenter? Mais c'est, en fait, moi, je suis pas contre ça, mais c'est toujours, l'idée, c'est toujours de prendre du recul et de dire, tiens, ce qu'elle propose, est-ce que ça m'intéresse? Et je vais le tester sur moi pour voir si ça me correspond. Et effectivement, il y a des personnes qui ont besoin d'un petit déjeuner salé, il y a des personnes qui, effectivement, ont des variations de glycémie, mais c'est toujours revenir à soi. C'est génial, il y a des personnes qui ne savent pas qui est glucose goddess, bah, restez dans cette ignorance.
Ah ouais, j'allais le dire, ne googlez pas glucose goddess, bien non. Heureux que vous êtes de ne pas connaître
mais
cette
non, mais
personne.
Elle a vendu, donc, en fait...
C'est un délire, hein, le nombre de copies.
Le problème, c'est que, donc je répète, cette obsession de la minceur, de la perte de poids, elle est, mais... tellement présente dans toute la société que quand il y a quelqu'un qui a l'air de proposer des solutions simples, eh ben on a envie d'y croire. Et donc, elle propose des solutions, elle vous dit quoi faire, et du coup, on a envie de... Donc, son livre, il s'est très bien vendu, elle a fait un deuxième livre, et comme on disait, maintenant,
traduit,
elle a des formules.
Elle fait une série docu sur BBC ou Channel 4.
Oui, voilà.
4.
Donc
elle
a, voilà. En fait, les solutions simples, c'est séduisant. Après, il y a quelqu'un qui parle de biais scientifique. En fait, effectivement, il y a un certain nombre de livres comme ça où il y a, mais je ne sais pas, 40 pages de références scientifiques. Mais faut savoir que les études scientifiques sur l'alimentation, il y en a très peu de sérieuses. C'est très compliqué parce qu'en fait, en gros, il faudrait prendre deux populations et dire, bon, bah, vous, je vais vous faire manger d'une certaine façon pendant 15 ans, et puis vous, je vais vous faire manger d'une autre façon, et on va voir à la fin ce qui se passe. Et personne n'a les moyens de faire ça.
Et puis, comme tu le rappelais, on est tous différents.
Et on est tous différents,
donc c'est encore plus compliqué.
Donc,
quoi.
Elle prend plein d'études qui sont souvent des études qu'elle interprète d'une certaine façon, ou sur une toute petite population, ou sur une courte durée, et elle prend ce qui lui convient.
Le fameux cherry picking, comme on dit.
Et effectivement, quelqu'un dit, mais sur un habillé scientifique, et en fait, elle sort des règles, mais testées sur elle, et après, elle sort des règles, effectivement, qui n'ont pas forcément à voir avec ce qu'elle dit. Mais après, la réalité de la glycémie, c'est compliqué, la façon dont le sucre fonctionne dans le sang, c'est compliqué, donc c'est intéressant de s'intéresser à soi, mais là aussi, en expérimentant sur soi.
Nayane, est-ce que tu pourrais me remonter un peu le chat, parce que Il y avait deux personnes, deux choses que je voulais lire, si tu as l'occasion. Vas-y. C'est bon. Alors, descends un tout petit peu. Pardon, excusez-moi hein, tout le monde. Olaven qui dit, ça fait 30 ans que mon poids yoyote de 3 kilos entre l'hiver et l'été. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais ça me convient. Bah oui, c'est ce que tu disais. Moi, c'est pareil. Hein, j'ai 2 kilos environ de différence.
Voilà. Alors, il y a plein de... C'est pas automatique, mais il y a
et
plein de raisons.
Je prendrai la question de Supermurgeman après.
Alors, si ça vous convient, bah, c'est génial. Parce que du coup, si vous l'avez observé sur plusieurs années, bah, ça vous a rassuré que c'était pas, ça montait pas, mais que ça variait. Bah, il peut y avoir le fait qu'on mange plus riche, ce qui n'est pas une obligation, parce que souvent je dis l'été il y a les apéros, l'hiver il y a les soupes, donc c'est pas automatique. Peut-être on bouge un peu moins, peut-être on mange un peu plus riche, peut-être qu'effectivement on va manger plus léger l'été parce qu'il fait chaud, mais si cette variation elle est régulière et qu'elle vous convient, ben, il n'y a aucun souci.
Et je prends aussi la question de Supermurgeman, d'ailleurs j'adore ce pseudo parce que j'ai la ref, lisez la BD. Si on a tous et toutes un poids d'équilibre, a-t-on tous et toutes une évolution différente personnelle, normale avec l'âge? Qui est la fameuse question de quand on vieillit, on grossit, point.
Alors je me bats contre cette croyance, ça n'est pas une fatalité et peut-être vous... connaissez autour de vous des personnes qui ont maintenu leur poids toute leur vie. Je dirais peut-être plus des hommes que des femmes, parce que les femmes, elles sont quand même beaucoup rentrées dans la spirale des régimes. En fait, il n'y a pas de fatalité à grossir, mais c'est très facile de grossir. Donc, si on mange selon ses besoins, qu'on s'écoute, effectivement, au fur et à mesure de la vie, on va avoir des besoins énergétiques un peu moins importants parce qu'on perd un peu de masse musculaire qui joue sur nos métabolismes et nos besoins. Donc, si on mange un peu moins, on va maintenir son poids. Si on mange à 60 ans comme à 20 ans, eh ben là, effectivement, on va prendre du poids. Donc, ce n'est pas une fatalité, mais c'est très facile. Je donne souvent l'exemple de... Il suffit de manger un tout petit peu trop, mais vraiment un tout petit peu trop. En un an, on prend 1 kilo. En 10 ans, on prend 10 kilos. En 20 ans, on prend 20 kilos. Donc, c'est très facile de grossir, mais ça n'est pas une fatalité.
Merci beaucoup. Il y a énormément de commentaires et de questions dans le chat. Malheureusement, je ne peux pas tout prendre parce que j'ai encore plein de questions pour Ariane. Mais vraiment, merci, 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 merci beaucoup. Je vois que ça intéresse beaucoup de monde, je n'en doutais pas. Autre question. Les coupes fins, ça fait maigrir?
Oui, sur le moment. Mais qu'est-ce qui se passe après?
Ah ah! Voilà.
C'est comme toute restriction.
Comme on disait, effet rebond, et puis, etc. Après,
et puis tout les dangers. Enfin, il y a eu tellement. Moi, j'ai des patientes qui ont, je sais pas, 40, 50, 60 ans, qui des fois me disent, mais j'ai eu les amphétamines, j'ai eu le médiator. Enfin, je veux dire, il y a eu beaucoup de choses et dont on, enfin, des choses qu'on interdit après coup. Donc, il y a des choses qu'on fait avec un manque de recul et qui s'avèrent dangereuses.
Et on parlera juste après des sémaglutides. Sauter des repas, ça fait maigrir.
Se priver, ça fait maigrir. Après, sauter des repas alors qu'on a faim, c'est de la restriction. Alors, c'est un truc que j'essaye quand même souvent aussi d'expliquer à mes patients. Sauter un repas parce qu'on a trop mangé au repas d'avant et qu'on n'a pas faim du tout, non, ça c'est normal, c'est juste de l'écoute.
On s'écoute, c'est ça.
Voilà, quand on s'écoute. Donc, effectivement, on fait un super déjeuner, on n'a pas faim le soir, on saute le repas, c'est normal. Mais sauter un repas alors qu'on a faim, mais on se dit, oh là là, faut pas que je mange, ça va pas pouvoir tenir dans la durée, mais ça va faire maigrir très ponctuellement.
Ou pas les 500 grammes, vous la prenez dès que vous mangez le lendemain. Bravo à Eberla qui est actuellement sur une série de 5 visionnages de postes. Ben voilà, incroyable. Ah oui, alors c'est intéressant la question d'Elora Lily. Merci Uriel. Bonjour, je pense que la première question à me poser, c'est pourquoi les gens doivent perdre du poids? Personne n'en parle. Mmh. Est-ce qu'il faut vraiment que des gens perdent du poids? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que tu peux très rapidement, parce qu'on n'aura pas le temps sinon de tout faire, mais nous répondre
en fait,
cette question.
Important, il y a perdre du poids alors qu'on a un poids normal, qu'on est à son poids d'équilibre, et donc là qui est rentré dans des standards de minceur, mais comme c'est pas naturel, ça va être de la restriction. Et après, il y a perdre du poids parce qu'on est au-dessus de son poids, parce qu'on a grossi. Et là, c'est une liberté. De voir est-ce qu'on se sent pas bien à ce poids-là. Et donc, moi, je suis vraiment pour la diversité. Donc, on peut avoir pris du poids, avoir dépassé son poids d'équilibre, mais se sentir bien, que ça corresponde à ce mode de vie. En fait, c'est intéressant de comprendre pourquoi on a envie de perdre du poids et puis en quoi le poids empêche quelque chose. Hier, j'avais une patiente qui a, je sais pas, peut-être, elle est à 5-6 kilos au-dessus d'un poids dont elle rêve. Mais en fait, en passant tout en revue, elle n'est empêchée en rien par ses kilos, c'est juste une question de regard sur elle. Et donc, c'est plutôt changer le regard que vouloir à tout prix perdre du poids. Donc, c'est vraiment comprendre pourquoi on a envie et que ce ne soit pas pour se conformer à des standards de beauté irréalistes.
Pourquoi et pour qui? Quelqu'un posait aussi la question de l'IMC, c'est vrai que je ne l'ai pas noté, mais merci, parce que j'avais complètement oublié. Donc, l'indice de masse corporelle, le fameux, est-ce que tu peux pareil très rapidement nous dire, est-ce que c'est l'alpha et l'oméga?
Oublier l'IMC.
Ah, voilà, oublier l'IMC.
Je ne peux pas rentrer dans les détails.
Vous avez entendu Ariane.
L'IMC est une notion collective de standards et ça ne sert à rien au niveau individuel. Je rentrerai pas plus dans
voilà,
les détails.
Merci beaucoup. Peut-être qu'on fera une deuxième session avec toi, s'il y a encore plein de questions, etc. Le sport, ça fait maigrir?
Non. Le sport...
Ça nous allait alors. Non, bon. Ok.
Non, le sport, c'est pour le bien-être, pour le plaisir, pour se sentir en forme, pour se sentir bien, voire pour la performance, mais pas pour maigrir.
Les régimes hyperprotéinés, ça fait maigrir?
Oui, sur le moment. Avec toutes les conséquences dont on a parlé.
Le régime keto, c'est génial.
Ah ça, c'est très à la mode. Le régime keto, c'est...
Chez les hommes, surtout.
Manger beaucoup, beaucoup de gras et pas de sucre, pas de féculents. C'est très à la mode. Je pense que c'est un régime qui inquiète les médecins et sur lequel on manque de recul pour l'instant. Mais manger à ce point gras, c'est probablement pas très, très bon pour la santé.
Et manger autant de viande rouge? Non plus. David qui dit plus de MC Nora, moins d'IMC. J'aime beaucoup, merci. Et Marie-Pierre, merci Ariane, qu'elle plaît cette IMC. Ensuite, je rappelle le régime keto, régime cétogène aussi. Faites attention, il y a beaucoup d'influenceurs d'hommes, parce que c'est quand même un régime qui est très plébiscité par les hommes. Et on verse rapidement dans une forme de masculinisme, en plus avec ce régime, puisqu'on mange beaucoup de viande, on arrête les légumes, on arrête les fruits. Donc, il y a un truc de moi, vrai bonhomme, viandard.
C'est un régime qui fonctionne pour... Alors, où il a été prouvé fonctionner pour les enfants qui souffrent d'épilepsie. c'est même pas, en fait, comme c'est très contraignant, c'est même pas prouvé pour les adultes parce qu'on n'a pas réussi à mettre en place des expérimentations suffisamment longues. Mais voilà, c'est pour, par rapport à l'épilepsie, parce que c'est des trucs, la question cétogène, il y a des choses qui se passent aussi au niveau du cerveau. Donc, enfin, c'est très compliqué. Mais en tout cas, pour les enfants qui souffrent d'épilepsie, c'est recommandé. Mais pour l'instant, c'est la seule recommandation de santé pour laquelle ça existe.
Faites attention parce que je sais qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de grand n'importe quoi sur Internet, sur le régime keto. Donc, vraiment. Vraiment, je vous en supplie. Faites attention à vos sources, quoi.
Toujours, voilà, exactement. Regardez les sources qui parlent.
Bah, voilà, Hector Inkop dit Liver King, Core Liver King, hein, qui est donc un influenceur. Enfin, si vous voulez aller vous rigoler un peu ou vous faire un facepalm sur YouTube et Instagram, allez voir ce qu'il poste, Liver King, qui d'ailleurs, en plus, on l'a appris, prend aussi des... Je crois que c'est lui qui... On vient d'apprendre qu'en fait, non, son muscle, c'est pas uniquement
c'est beaucoup,
la viande, c'est qu'il
beaucoup
prend
de poudre, de protéines,
des anabolisants et de la prot et tout. On continue. On peut maigrir avec des tisanes et des compléments alimentaires?
Bah, si on mange rien, on maigrit. Après,
si on boit de l'eau,
en fait,
on maigrit.
C'est toujours important, hein, vraiment, de penser... maigrir et ne pas regrossir. Qu'est-ce qu'on peut faire dans changer son alimentation? Quelque chose de durable qui va permettre de perdre du poids, pour revenir à ce qu'on disait, si on a envie, besoin de perdre du poids, mais qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas reprendre de poids? Tout ce qu'on dit là, ça permet de maigrir, mais ça fait regrossir ensuite.
Et donc les compléments alimentaires, c'est quand même... un énorme marché là qui est en train de prendre une place quand même hallucinante. Et d'ailleurs, il y a eu des alertes je crois que c'est de l'ANSES d'ailleurs très récemment sur l'utilisation non encadrée des compléments alimentaires, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on peut remplacer une alimentation équilibrée par des compléments alimentaires.
Et alors, faut pas confondre les compléments alimentaires, ce qui revient à prendre des minéraux dont on peut avoir besoin,
des
du zinc, du magnésium, etc.
De la B12 pour les véganes.
Et tout ce qui est, je vais vous faire perdre du gras, ça va vous faire
les brûles-graisses,
etc.,
là.
Qui sont une escroquerie. Économisez votre argent. Hein. Donc il y a rien qui marche là-dedans. Donc c'est pas la peine de dépenser de l'argent.
Les jus détox. Et les monodiètes, donc manger un seul aliment à la soupe aux choux par exemple, c'est super pour détoxifier le corps. Je sais que tu adores cette question.
J'adore dire la détox et de l'intox. C'est-à-dire que la
punchline.
Le corps sait détoxifier. On a un foie, on a des reins, donc on n'a pas de problème, on n'a pas besoin de faire une détox. Ceci dit, moi je n'ai rien contre le fait de... Mais c'est pas du tout dans une optique de perdre du poids. De temps en temps, si on a l'impression qu'on a eu une alimentation un peu riche pendant plusieurs jours, qu'on a effectivement une digestion un peu difficile, de faire un jour de monodiète, mais dans une optique de reposer le système digestif. Et donc de faire une monodiète de pommes, de ce qu'on veut, mais en se disant, voilà, je mets un petit peu au repos, parce que voilà, des choses faciles à digérer qui fait que mon corps, il va un petit peu se reposer pendant un jour.
Oui, ça, c'est pas, voilà. Pendant les fêtes, voilà. On mange beaucoup pendant plusieurs jours avec la famille, si on va voir sa famille, donc on se dit, oulala, voilà, je me sens vraiment plein et tout, donc demain, ça va être soupe, bouillon, j'en sais rien.
Exactement.
Mais pas, encore une fois, tu le martèles et tu as bien raison, et donc je le répète, c'est... dans une optique
de repos, de digestif,
les huîtres et le pâté et le foie gras qu'on a mangé la veille, quoi.
Et après, c'est toujours faire confiance à son corps, c'est-à-dire que bien sûr qu'on a peut-être pris un kilo et demi pendant les fêtes, si on revient à son alimentation normale, on va les reperdre, pas s'inquiéter.
Alors il nous reste 30 minutes, c'est incroyable, ça passe tellement vite, j'ai 1000 trucs à te poser. Donc, je suis désolée, je vais poser mes questions et je vais en prendre quelques-unes dans le chat. Mais alors, j'aimerais vraiment qu'on finisse parce que, notamment, la prochaine question, elle est sur les fameux sémaglutides. Les sémaglutides, Ozempic, Wegovy et compagnie, c'est la solution pour maigrir durablement, Ariane?
Alors, c'est le nouveau marché gigantesque. C'est-à-dire, ça va prendre une place phénoménal parce qu'il y a un poids des labos. En fait, c'est comme je le répète encore, mais il y a une telle obsession de la minceur dans toute la société que quand les labos pensent avoir trouvé quelque chose, tout le monde se jette dessus. Alors, l'Ozempic, c'est un médicament pour le diabète au départ. Sauf que les gens arrivent à détourner, donc il y a eu beaucoup de trafic aux États-Unis, etc., jusqu'à ce que les gens qui en avaient vraiment besoin ne puissent plus en avoir. Le Wegovy, c'est la même molécule, mais plus dosée. Donc le Wegovy, lui, est vraiment défini pour perdre du poids. Alors, il y a deux problèmes avec ça. Enfin, deux principaux problèmes, parce qu'il y en a plus. Il y a tous les effets secondaires, c'est-à-dire que, OK, on perd du poids, mais il y a des problèmes digestifs, des problèmes en termes de santé mentale, des problèmes physiques, enfin, monumentaux. Donc, ce n'est pas du tout confortable. Et puis, la deuxième chose, je vais en dire trois, ça coûte énormément cher. Donc, il y a un pressing des labos pour faire rembourser. Donc, ça coûte très cher. Et le deuxième problème, c'est qu'il faut le prendre à vie, puisque le principe de ces médicaments, c'est que ça coupe la faim. Donc, évidemment, quand on a beaucoup moins faim, on mange très peu. Sauf que dès qu'on arrête le médicament, on remange et on reprend du poids.
Classique.
Et donc, prendre un médicament comme ça, qui est un médicament quand même très, très puissant pendant toute sa vie, c'est complètement fou.
Et on n'a, encore une fois, pas assez de recul.
Et on n'a pas de recul.
Pour savoir quels sont les effets à long terme.
Est-ce que c'est un nouveau scandale à moyen terme?
Comme ça, le médiateur dont tu parlais tout à l'heure.
C'est terrible. Et puis, les personnes qui le prennent sont souvent des personnes qui ont très peu de poids à perdre. En fait, c'est là, on en revient toujours à pourquoi on veut perdre du poids. Donc, toutes les vedettes, toutes les personnes qui sont dans le monde de l'image utilisent ça. Mais c'est en train de prendre le pas sur la chirurgie bariatrique, qui était l'ancienne solution magique telle qu'elle était perçue pour perdre du poids. Donc, c'est toujours d'essayer de. Moi, dans ma démarche, j'essaye toujours d'aider la personne d'abord à comprendre pourquoi elle a pris du poids. Travailler un peu sur son histoire et puis pourquoi elle veut en perdre et pas se lancer dans un truc tête baissée.
Merci à World Company qui vient de se réabonner. Imitez-le, imitez-la. N'hésitez pas, vraiment, ça fait toujours du bien et plaisir. Tout le monde peut maigrir, c'est une question de volonté, enfin.
Alors, ça n'est pas du. On en parlait tout à l'heure, c'est pas du tout une question de volonté, même si la société met ça en avant. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, tout le monde peut. Alors, il y a trois catégories, mais je vais redire parce que je dis. Si on est à son poids naturel, on peut maigrir, mais ça ne va être qu'au prix de la restriction. Si on est au-dessus de son poids, on peut peut-être maigrir, mais on va pas forcément maigrir autant qu'on veut. Mais déjà, moi, ce que je travaille, que je fais beaucoup, des fois, on maigrit pas beaucoup, mais on sort de ses obsessions alimentaires, on retrouve une alimentation tranquille et tout. Et donc, il y a une part. Mais quand on a beaucoup de poids en trop, des fois, on a envie d'un confort physique. Et ça peut passer aussi par une reprise d'activité physique. Enfin, c'est toujours pareil, chaque personne est différente. Mais non, tout le monde ne pourra pas, maigrir.
Physique,
et surtout pas maigrir autant qu'on veut.
Et grossophobie, que ce soit discrimination à l'embauche, ouais. Discrimination dans le public, discrimination dans les relations amoureuses. Quand même le regard aussi et la manière dont la société est construite.
Moi, je respecte toutes les personnes grosses, celles qui veulent s'accepter et celles qui veulent mincir. Et le fait, il y a quand même un truc important parce que des fois, moi, je respecte toutes les militantes anti-grossophobie, mais on a le droit de vouloir mincir pour son confort physique. C'est-à-dire que des fois, on est grosse, puis on se sent pas bien, on a du mal à marcher, on a mal aux articulations, et donc on a le droit de vouloir mincir. Moi, je suis vraiment pour la liberté de choix.
Nous aussi. Au poste. On sait que les femmes subissent davantage, on en a parlé un peu, les normes sociales et médicales grossophobes, je dis médicales parce que c'est important, il y a quand même une grossophobie médicale qui
terrible.
Est terrible. D'après plusieurs enquêtes à silhouette similaire, les femmes se trouvent plus grosses que les hommes et donc elles font plus de régimes qu'eux et elles commencent plus tôt. D'après les données françaises, alors on a une enquête de 2014 par l'OMS, j'ai pas trouvé de données plus récentes, si vous avez des données plus récentes, n'hésitez pas. Plus de 13% des collégiennes de 11 à 15 ans ont déclaré être au régime. Et c'est deux fois plus que les garçons. Et donc tout ça fait dire à la chercheuse Solène Karoff, dont je vous conseille absolument le livre sur la grossophobie. Elle dit que le régime est une pratique socialement différenciée. Est-ce que toi, Ariane, tu as un patient ou une patiente type en termes de genre, en termes de classe sociale, en termes d'âge, en termes de, entre guillemets, race sociale, en termes de silhouette. Rapidement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce portrait robot
disons, dans notre monde capitalisto-patriarcal, le corps des femmes est objectivé, donc elles doivent répondre à des normes de minceur, enfin, qui sont actuellement normes de minceur, de beauté. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus une préoccupation pour les femmes que pour les hommes. Et donc les hommes se préoccupent moins de ça parce que c'est moins valorisé comme un élément indispensable de réussite de les femmes.
Et désirable.
Je recommande aussi beaucoup les travaux de Camille Froide-Vométry, hein, qui a beaucoup réfléchi sur la question du corps. Hein. Donc les femmes, elles sont objectivées, donc elles doivent se conformer à des normes. Et ça commence à 7-8 ans. Ça commence très très tôt. Donc à 7-8 ans, on ne fait pas forcément un régime, mais il y a vraiment une notion, mais qui est même peut-être à 6-7 ans, où c'est mieux d'être mince. On a envie, on est juste normal, si on peut dire, ça ne veut rien dire normal, et on a envie la brindille, l'asperge, enfin la figue et tout mince, parce que, je sais pas, on a intégré que c'était mieux d'être comme ça. Donc, de ce fait-là, je dois avoir, moi, 90% de femmes dans ma clientèle. Parce que les femmes ont cette contrainte de maîtriser leur poids. Alors dans ma clientèle aussi, beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup de régimes et donc qui veulent sortir de ça. Donc c'est très majoritairement des femmes. Et les hommes, bon, sont moins préoccupés par leur corps, donc vont souvent attendre d'avoir pris beaucoup de poids ou attendre vraiment une raison de santé. Et puis les hommes sont plus, je caricature forcément un petit peu, hein, mais dans un truc, je vais me débrouiller tout seul, je vais faire du sport à fond, je vais supprimer la charcuterie, le fromage, etc. Donc dans un truc très volontariste, donc ils sont quand même un peu plus là-dedans et moins se faire aider. Donc très majoritairement des femmes. En termes d'âge, c'est tout le monde. Je dirais que la prise de conscience des méfaits des régimes, ça peut intervenir très tôt. Donc j'ai des femmes entre, je dirais, 25 et 60 ans, beaucoup autour de 30-40. En termes de classe sociale, bah, je dirais que aller voir une diététicienne, ça a quand même un coût. C'est pas remboursé par la sécurité sociale. C'est pris en charge en partie par quand même pas mal de mutuelles. Donc évidemment, je n'ai pas des personnes de milieu extrêmement modeste. Après, il y a des personnes quand même qui, enfin, je veux dire, je peux avoir des assistantes maternelles, enfin, des gens qui, enfin, vraiment, enfin, des personnes de classe populaire, donc qui vont venir peut-être moins souvent, mais pour qui c'est important, en fait, de faire ça. Mais je dirais que j'ai donc des personnes de classe différentes. La différence, je dirais que souvent, c'est socialement, c'est encore plus mal vu de grossir dans les milieux favorisés.
Oui, on sait par exemple que l'anorexie touche beaucoup plus, donc déjà les filles, mais surtout les filles et les femmes qui sont dans des classes sociales dominantes.
Bah, disons qu'il y a vraiment une question de quand on grossit dans les CP+, il y a une question de plus se conformer aux normes féminines, mais il y a aussi une question de déchoir, comme effectivement il y a plus de personnes grosses dans les. En fait, on a vraiment changé, c'est-à-dire qu'avant il y avait le gros banquier, enfin je veux dire c'était valorisé, maintenant ce qui est vraiment valorisé, c'est la minceur.
Ostentatoire.
De questions de discipline, de maîtrise de soi. Donc, effectivement, grossir, c'est vraiment très mal vu. Donc, j'ai vraiment différentes classes sociales. Je dirais que dans les classes sociales les plus favorisées, il y a sûrement plus d'envie et de facilité d'accès au savoir nutritionnel. Mais ça ne sert pas forcément. C'est-à-dire qu'au contraire, j'ai des personnes qui me disent « mais je sais tout sur la nutrition, je pourrais écrire un bouquin, etc. » Mais savoir, ça ne veut pas dire forcément faire. Des fois, elles sont trop envahies, au contraire, par les connaissances. Alors qu'une personne qui sait moins, finalement, va peut-être plus facilement retrouver une alimentation. Elle est peut-être moins polluée, finalement.
C'est plus spontané, quoi. Comme tu disais, entre guillemets, naturel, de pouvoir s'écouter, etc.
Et exactement.
Il y a beaucoup de gens, je vais quand même te poser la question, parce qu'il y a plusieurs personnes qui... Alors déjà, Rob Le Blob et Anis Graffiti, qui nous disent qu'ils et elles sont sobres depuis 2 ans et 14 mois. Bravo à vous, c'est très difficile. Force à vous, courage à vous. Mais il y a deux personnes qui ont posé la question des garçons. Est-ce que tu peux nous, très rapidement, vraiment nous dire, des gens demandent, et j'ai l'impression que les garçons sont de plus en plus exposés à ça, de plus en plus de garçons qui développent soit des troubles de l'économie alimentaire, ou soit qui se mettent au régime. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as pu voir? Est-ce que tu as des parents qui viennent te voir par rapport à leurs enfants, ou bien des ados, ou des jeunes adultes?
Alors, rapidement. J'avais créé un blog en 2008, donc c'est vieux, et il y a au moins 10 ans, j'avais écrit un billet de blog « L'homme est-il une femme comme les autres ?» C'est-à-dire où j'avais l'impression effectivement que les hommes étaient de plus en plus soumis aussi à des normes de beauté. Et je dirais que dans certains milieux, quand on est cadre en entreprise, PDG, etc., ben, vaut mieux être fit, comme on dit, que gros. Donc il y a quand même des pressions aussi sur les hommes. Mais je dirais que les femmes, c'est la minceur. Les hommes, c'est quand même plus les muscles, la force, l'énergie.
Prise musculaire,
la prise musculaire. Et donc, j'ai eu de temps en temps des ados ou très jeunes adultes qui sont venus me voir maigres. Et en fait, l'homme maigre, il est mal dans son corps. Et donc, ils me disent, mais qu'est-ce que je peux faire côté alimentation? Je dis, mais si vous mangez plus, vous allez prendre du gras. Vous n'allez pas forcément... vous pouvez pas... En fait, ça, c'est un truc important pour les femmes et pour les hommes. On ne peut pas changer sa morphologie.
Sa forme,
c'est-à-dire qu'il y a des personnes grandes, des personnes petites, des personnes qui ont des épaules, des personnes qui sont fines. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Donc par rapport à ça, des hommes vraiment maigres, je leur dis, bah, vous pouvez prendre un peu de masse en faisant du sport, mais ça aura quand même ses limites. Hein. Il y a même un jeune homme qui était venu me voir qui voulait grandir. Il voulait dire comment manger pour grandir.
Mange de la soupe.
Non, donc voilà, il y a une part d'acceptation qui est importante.
C'est ça qui est difficile, t'en parles depuis le début, de se dire qu'en fait, on ne peut pas avoir prise sur tout. Il y a des gens qui ne pourront jamais perdre les 15 kilos, aimeraient perdre.
Et puis il y a notre morphologie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont mises au régime, en fait, des fois à l'adolescence, au moment où elles commençaient à avoir des hanches, des fesses, etc. Et on ne peut pas se raboter les hanches, quoi. Donc il y a une part, effectivement, si on a pris du poids, il y a une part qu'on pourrait perdre, mais il y a une part de morphologie qu'on ne pourra pas changer. Et là aussi, on est... En fait, il y a un travail à faire qui est compliqué, qui est d'essayer de trouver d'autres images, sortir des images de minceur qu'on voit quand même un petit peu partout.
Star, donc, oui.
Trouver d'autres modèles pour se dire que la richesse, elle est dans la diversité.
Moi, j'aimerais avoir des seins plus gros, mais il n'y a rien que je puisse manger pour ça.
Moi, j'aimerais être plus grande, mais bon...
Bah, ça, c'est pareil. Mon 1m60, bon, en concert, c'est compliqué. Il reste 15 minutes, donc je vais essayer de poser toutes les questions que j'ai envie. On va peut-être un peu moins développer. qu'est-ce qui a changé? Toi, ça fait 15 ans que tu fais ce métier.
17, 18.
17, oh là là, waouh. Qu'est-ce que tu as observé comme changement? Dans peut-être le discours des gens qui viennent te voir, en tout cas dans ta pratique.
Il y a quelque chose qui a vraiment changé, enfin, c'est la connaissance du sujet, c'est-à-dire le vocabulaire. En fait, les personnes, elles arrivent, et ça, ce n'était pas le cas il y a 15 ans, en disant « je souffre de TCA, je fais de l'hyperphagie, j'ai un manger émotionnel ». Enfin, voilà, les personnes s'auto-étiquettent, en fait. Beaucoup plus alors.
Autodiagnostique,
voilà,
un peu quoi.
Autodiagnostique, et ça n'existait pas. Alors il y a du bon et du mauvais là-dedans, parce que des fois ça enferme un petit peu trop. Donc il y a ça qui a changé. Après, la diabolisation du sucre, elle était peut-être moins forte quand même il y a 15 ans. Elle se développe, elle varie, etc. Mais donc elle est quand même très présente. Et ce qui a changé vraiment, enfin peut-être tu veux creuser un peu ça, c'est quand même le Internet, les réseaux sociaux. Alors, il y a vraiment du pour et du contre. Ce qui a changé, c'est vraiment l'accès de tout le monde à l'information et à la possibilité de diffuser de l'information. Ce qui veut dire que ça a quand même créé tout le mouvement body positive, c'est-à-dire le fait quand même que les personnes grosses avaient accès à pouvoir diffuser de l'information, faire comprendre ce qu'elles subissaient. Enfin, avant, bon, il y avait les livres, les magazines, mais donc là, il y a quand même pouvoir montrer d'autres choses. Donc, il y a quand même ça qui a changé. Par exemple, grossophobie, c'est rentré dans le dictionnaire. Donc, il y a quand même une compréhension, une connaissance de ces sujets-là et de ce que vivent les personnes grosses où on a quand même avancé, hein, même si ça, enfin, il y a une grossophobie même internalisée chez les personnes grosses, une grossophobie de tout le monde. Ah, mais quand même, c'est pour ta santé. Enfin, tout ça, quand même, c'est la grosse. Enfin, il y a une prise de conscience. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas grossophobe. Mais donc ça, c'est quand même une évolution.
En tout cas, le discours peut se diffuser. Voilà, la pédagogie se fait.
Le discours. Mais du coup, enfin, la contrepartie de ça, c'est que tout le monde. Enfin, on en parlait tout à l'heure. Hein, tout le monde parle et dit n'importe quoi sur l'alimentation. En fait, c'est ça le problème, c'est que tout le monde mange, donc tout le monde a envie de dire, moi, j'ai fait un truc et faites pareil. Hein, c'est J'en reviens toujours à ce que je disais. quelqu'un va vous dire quoi faire, bah, est-ce que ça vous convient à vous? Donc toutes les personnes qui font du prosélytisme, oh, moi bah, voilà comment j'ai mangé, j'ai perdu 10 kilos, bah, prenez un peu de recul, qui parle, et puis peut-être c'est pas parce que ça convient à cette personne-là en tant qu'individu que ça vous convient à vous.
Sur les réseaux sociaux, il y a quand même moi j'estime qu'il y a un manque de régulation qui est quand même énorme. En ce moment, on parle beaucoup du skinny talk. Donc, c'est-à-dire, ça vient de TikTok, mais c'est partout. C'est-à-dire, c'est pas nouveau du coup, mais parce que moi j'ai connu et toi aussi les blogs pro-ana, pro-anorexique dans les années 2000. Puis vraiment cette valorisation des corps très maigres.
Le figure l'écart entre les cuisses. Enfin,
voilà, le side gap challenge et tout. Mais là, on voit une résurgence sur les réseaux sociaux des comptes de femmes, parfois de femmes très jeunes, qui valorisent vraiment une maigreur extrême et qui diffusent des discours du genre t'es pas moche, t'es juste grosse. Et puis, du quand on veut, on peut. Et puis, manger du. Mais vraiment toutes les
stratégies. Oui, et puis en fait, avec beaucoup de culpabilisation et vraiment être, comme tu dis, beaucoup sur quand on va, on peut, c'est une question de discipline, va y arriver. Et c'est ça un peu la difficulté des réseaux sociaux, c'est que elle y arrive, pourquoi moi je n'y arriverai pas? Et ça, c'est ça. Vraiment un gros inconvénient des réseaux sociaux. Et puis le gros inconvénient, c'est l'algorithme. C'est-à-dire, je regarde un truc, et ben on m'en montre de plus en plus, Et ça, c'est une folie, et c'est pas du tout régulé.
Et d'ailleurs, je sais pas si vous le savez, pour les gens qui sont sur Instagram notamment, vous pouvez aussi dans votre Explorer, là, où justement, une fois que vous avez vu deux bébés loutres, on vous montre que des bébés loutres, et ça c'est super. Mais quand c'est du skinny talk, c'est pas super. Vous pouvez aussi mettre, je crois que c'est pour vous, et puis il y a aussi l'option générale, quoi. Donc vous ne verrez pas des choses que vous avez déjà vues. Il y a aussi le hashtag healthy, mais bon, ça, on en a parlé déjà quand même pas mal. Étude de quand même revue scientifique danoise, le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, le risque d'être concerné par un trouble alimentaire augmente de 2,2 à 2,6 fois plus chez les jeunes après une importante exposition aux réseaux sociaux. Et on sait qu'Instagram, notamment, TikTok dans le truc, mais les études ont été faites avant que TikTok existe. Je me rappelle Instagram qui est le pire réseau social pour l'estime de soi et la représentation de soi et la culpabilité, etc.
Il y a un aspect positif de donner que tout le monde puisse parler et montrer d'autres corps, mais il est peut-être mineur par rapport effectivement à tout ce que ça permet. Je dirais que c'est toujours intéressant, si vous êtes sur Instagram, d'observer qu'est-ce que ça vous fait de regarder tel compte, telles images, etc. Est-ce que ça génère plutôt des émotions agréables? Ah bah oui, c'est bien, c'est sympa, c'est intéressant, c'est agréable, cette personne a l'air sympa. Ou ça génère de la culpabilité, de l'envie, de la jalousie, etc. Si ça génère toutes ces émotions un peu désagréables, peut-être que c'est pas la peine de suivre cette personne.
C'est d'ailleurs la journaliste Constance Villanova, dont je vous conseille le travail, les travaux, qui a travaillé sur la télé-réalité, mais aussi sur, elle a fait un docu sur France Inter sur le skinny talk justement, puis elle a été interviewée là-dessus et elle disait que même elle, en travaillant journalistiquement, en investiguant ce sujet, elle a 32 ans, elle est mince, elle a dit même moi, j'ai commencé à développer des idées que j'avais pas avant en voyant tous ces corps, etc. Donc en fait, ça va très très vite, même quand on se pense solide sur ses appuis en termes peut-être d'acceptation de son corps, etc., ça va vraiment très très vite. T'en as un peu parlé tout à l'heure, mais il me reste quelques questions. Pourquoi est-ce qu'on se tourne vers des influenceurs, influenceuses ou des solutions miracles comme celles dont on a parlé tout à l'heure avec le Ozempic, les tisanes diurétiques, des coupes fins, des brûles-graisses, etc.?
Je pense qu'il y a toujours, on est dans un monde quand même qui va vite, donc il y a toujours l'idée d'une solution un petit peu rapide, miracle, où on va perdre très vite. C'est pour ça que c'est vraiment changer d'état d'esprit. Enfin, il y a tout ce qu'on a dit sur est-ce qu'il faut perdre du poids, etc. Enfin, on peut pas redire tout, maigrir et ne pas regrossir, c'est-à-dire se situer vraiment dans une démarche durable et du coup toutes ces solutions miracles. Est-ce que je veux les adopter pour toute la vie, hein? C'est ce que comme tu disais, si on supprime les gâteaux, les chocolats, les frites, les pizzas, peut-être on va perdre du poids, mais est-ce qu'on a envie de se priver de ça toute sa vie? Et sinon, non, quand on les réintroduit, peut-être on va regrossir ou se jeter dessus. Donc toujours voir une solution comme, est-ce que cette façon de manger, j'ai envie vraiment de l'adopter pour toute la vie
à long terme, ouais. Oui, parce qu'on sait très bien, Parfois, on a envie de croire à ça parce qu'on voit des célébrités qui sont minces depuis qu'elles ont 20 ans et elles le sont encore à 70 ans. Mais il faut se rendre compte que ces personnes déjà ont de l'argent.
Bah oui, quel mode de vie elles ont, quoi.
Voilà, ont des coachs, ont des diététiciennes, ont des chefs à domicile, ont peut-être un métabolisme, comme tu le disais, et un poids de forme, etc.
Surtout, effectivement,
et sont en contrainte toute leur vie,
je pense
en fait.
Que c'est surtout, voilà une contrainte, mais qui est entre guillemets facile à vivre puisque tout est cadré. C'est-à-dire que quand on te fais tes repas. Tout à l'heure, je disais que ce qui était facile dans le régime, c'est de plus penser. Quand on te fait tes repas, que tu as ton rendez-vous avec le coach sportif, que tu vas faire, que tout va être organisé, que tu peux te le payer, bah, finalement, c'est facile de
maintenir. C'est
littéralement
le mot régime, d'ailleurs, le régime, le régime de vie, quoi. Salut Rob Le Blob qui dit c'était super, merci beaucoup. Et ça fait du bien de parler de sobriété. D'ailleurs, on avait fait un épisode sur l'alcool, l'addiction à l'alcool et le problème français avec l'alcool. Si ça vous intéresse, il y avait beaucoup de gens dans le chat qui racontaient leur histoire avec l'alcool. C'était très émouvant et très intéressant. Donc, salut Rob Le Blob, à bientôt.
Et justement là-dessus, enfin, pour parler de, parce qu'on en parle, ça, c'est, on en parle beaucoup. Moi, dans l'état actuelle des recherches, il n'y a pas d'addiction au sucre. Il n'y a pas d'addiction au sens
physique. Je pense qu'on fera un épisode avec toi aussi et quelqu'un d'autre sur le sucre, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de publications. Récemment, on a vu aussi un bouquin. Bon, il y a quand même beaucoup de questions sur le sucre. On en parlera dans un épisode spécial sucre. Il y a aussi, on en a un peu parlé, on n'a pas le temps d'en parler beaucoup là, mais la violence des soignants et des soignantes qui, quand vous venez pour un rhume, vous disent « Ah bah, il faut aussi perdre du poids. » Et t'es là, mais je suis venue pour un rhume, laissez-moi tranquille.
C'est terrible. En fait, les médecins sont très peu formés à la complexité de la question alimentaire. Donc, ils vont tout de suite... à la fois, ils vont dire « Vous n'avez qu'à perdre du poids. » Et puis, ils voient tout par ce filtre-là. Et donc, ont tendance à mettre tous vos problèmes de santé sur la question du poids, même quand ça n'a rien à voir et que c'est une question de rhume, de migraine, etc.
Oui, et puis il y a aussi la dépolitisation de tous ces enjeux, la surresponsabilisation individuelle, comme on blâme les personnes en précarité de mal manger, c'est de votre faute quand on en revient à cette idée dont on parle depuis tout à l'heure. Et puis
je voudrais juste dire là-dessus que ça n'est pas qu'une question d'argent, c'est-à-dire que c'est vraiment une question, comme je disais, globale et complexe, où il y a aussi la question du temps, le temps de s'informer, le temps de faire ses courses à un certain endroit, le temps de cuisiner, enfin, il y a l'espace mental pour ça, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont complexes dans la question de l'alimentation, et c'est beaucoup plus complexe que juste la question de l'argent. Et donc c'est important de dire effectivement par rapport au niveau politique, c'est pas juste je vais donner un panier de légumes à 10 euros qui va changer les choses, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Ou bien faites du sport, c'est bon quoi, ça va les gros, allez courir, débrouillez-vous, sortez-vous les doigts, quoi. Enfin, ça c'est encore un truc qu'on entend énormément. Et puis tu parlais aussi, je voulais le rappeler quand même, de l'alimentation qui est vue comme fonctionnelle et non comme une source de plaisir, parce que toi tu défends le plaisir de manger et la gourmandise.
Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait un peu de la conscience et de l'attention, c'est-à-dire d'essayer de ne pas manger complètement machinalement et pas manger des nutriments, manger des aliments, se faire plaisir. Et donc c'est là aussi de manger des choses dans la reprise de confiance en soi, c'est ce que je disais, on ne va pas avoir envie de manger toujours la même chose, et la variété aussi est source de plaisir. Et moi, je diabolise rien, donc je suis pour qu'on mange des pizzas et des frites, mais pour qu'on mange aussi des légumes, à condition qu'ils soient bien cuisinés, pas forcément des légumes vapeur.
Ouais. Oh là là, les légumes vapeur sans sel, sans beurre, sans rien du tout. Là. Il me reste deux questions, je vais aller vite. Comment faire pour ne pas transmettre ces névroses à ses enfants et ne pas diaboliser des aliments et ne pas justement commencer à instaurer un rapport un peu marchand d'obsession, alimentation, de punition, d'interdiction, de récompense, parce que je sais qu'avec mes bouquins, j'ai beaucoup de parents, notamment des mères, évidemment, qui viennent me voir en disant « mais je me suis rendu compte que j'étais terrifiée à l'idée de transmettre mes névroses sur la minceur à ma fille, à mon fils. » Donc, est-ce que tu aurais vraiment rapidement peut-être des astuces, des conseils ou des pistes de réflexion ?
Je dirais que l'important, c'est d'abord de travailler sur son comportement à soi. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'après, on sait, les enfants, ils sont beaucoup dans l'exemple et dans imiter ce qui se passe. Donc, si on voit sa mère se peser tous les jours, la petite fille, tout de suite, elle va dire c'est sympa, ça, c'est normal. C'est comme ça que je grandis et je vais me peser aussi tous les jours. Donc, c'est très important de travailler pour soi. Alors, tout à l'heure, je disais, tout le monde ne peut pas aller voir une diététicienne. Alors, moi, j'ai essayé, j'ai fait un blog, j'ai fait un podcast, j'ai fait une newsletter, enfin, plein de choses gratuites pour essayer.
Je vous conseille d'écouter tout ça.
Diffuser un message. Alors, après, on sait que même les podcasts et tout, c'est aussi ciblé. Enfin, c'est,
on
c'est
sait pas... que la démographique, voilà. c'est CSP, voilà. urbain, mais bon, etc.
Et donc, j'avais créé mon podcast justement pour dire, pour essayer de tranquilliser les mères et casser cette espèce de transmission de mère en fille. Donc, c'est travailler sur soi, c'est-à-dire, du coup, laisser les enfants... Alors, je dirais, les enfants, ils sont régulés. Donc, un enfant, il mange quand il a faim, il s'arrête quand il a plus faim, donc pas le forcer à finir son assiette. Et puis, le parent, justement, on parlait du plaisir, s'il montre qu'il mange de tout avec plaisir, s'il propose de la diversité, s'il fait goûter, hein, sachant qu'on sait qu'il faut faire goûter de façon répétée, ben, l'enfant,
la
il va peut-être...
La néophobie des enfants.
Il va peut-être voilà, avoir plaisir à manger. Ce qui me paraît le plus important, c'est de... Bon, d'essayer de ne pas être obsédé soi-même par son poids, de surtout pas faire de remarques sur le poids de ses
Alors
enfants.
Ça, c'est quand même important. Et ça, même à tout le monde. Arrêter de parler de la silhouette
voilà,
des autres.
D'arrêter de faire des commentaires et même « Ah, super, tu as minci !»
Même si c'est dur à entendre qu'on soit même dans une démarche d'amaigrissement. Non, voilà.
Mais se dire qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc ça, et puis surtout, de ne pas avoir de stress à table. C'est-à-dire d'essayer que le repas à table, bah, il soit tranquille, il soit... Donc après, si l'enfant ne mange pas, toujours essayer de dire, bah, tu goûtes ça, goûte, tu ne peux pas dire que tu n'aimes pas ce que tu goûtes, mais bon, bah, il n'aime pas, bon, bah, tant pis, il n'en mange
c'est
pas.
C'est pas puis, le moment, peut-être
voilà,
que refaire dans
goûter,
6 mois ou dans
dit,
un
voilà,
an,
a...
mais, moi en j'adore fait, les betteraves maintenant, je n'aimais pas ça pendant 30 ans.
Mais moi je vois des personnes qui ont eu des gros problèmes, enfin, leur mère avait des problèmes, elles ont des problèmes, et puis elles ont commencé un travail là-dessus, et je me rappelle une patiente qui disait, mais mes enfants, ils aiment autant les brocolis que le chocolat, quoi. Tellement on leur a pas... C'est... En fait, c'est aussi pas classer les aliments en bons et mauvais. Ça,
oui,
c'est
la
hyper
punition,
important.
Tu auras... voilà. tu... La si punition, tu manges des brocolis, tu auras du chocolat,
voilà.
etc.
Mais de dire c'est normal de manger de tout. Et parce que sinon, quand on a... Alors, c'est bien de manger sainement. Hein, c'est pas... Moi, je critique pas les parents qui ont envie de donner une alimentation saine à leurs enfants. Mais si c'est trop rigide et qu'il n'y a jamais de biscuits, de bonbons et tout, les enfants, ils vont complètement se lâcher dès qu'ils sont chez les copains. Donc, c'est pas
puis,
forcément la solution.
Et puis, diaboliser les aliments, c'est pas possible. Il y avait Uriel qui a reposté un commentaire qui vient du live sur YouTube de Mathilde Rousselot qui disait qu'elle est allée voir quelqu'un pour perdre du poids un ou une diète je crois et qui lui a demandé pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids et elle dit je crois qu'il me semble oui. Donc voilà, nutritionniste, j'ai dit je veux maigrir, elle m'a demandé pourquoi, aussi simplement que ça, et je ne savais pas répondre, c'était bouleversant. Alors justement ça fait le lien avec ma dernière question. Toi, tu écris qu'on peut, je cite, « mincir sans faire de régime ». Alors, si on souhaite perdre du poids, très rapidement, c'est quoi tes conseils ou tes recommandations? Tu en as déjà, évidemment, beaucoup donné en une heure et demie d'émission.
Elle dit, c'est bouleversant, mais effectivement, parce que c'est... Enfin, moi, c'est ça qui m'intéresse dans mon métier. C'est très complexe, comme on l'a dit, la question de l'alimentation. Donc, quand on dit pourquoi, tout à coup, ça ouvre, c'est vertigineux. Mais si on ne sait pas, on dit, je vais y réfléchir, puis on en reparlera. Enfin, on a peut-être besoin de se poser et de réfléchir un petit peu. Moi, j'ai une démarche un peu que j'appelle les 4 C, c'est-à-dire constater, comprendre, changer, consolider. Donc, de regarder sa façon de manger et comprendre pourquoi on mange comme ça, pourquoi on a pris du poids, pourquoi on veut maigrir. Et puis après, on travaille. Alors, selon les personnes, sur le fait de se reconnecter à ses sensations alimentaires, de comprendre pourquoi on a des difficultés à manger, remanger de tout, pas être en restriction. Si on mange pour des raisons émotionnelles, se détacher un peu les émotions de fait de manger. Enfin, vraiment une approche très globale pour que la personne retrouve une façon naturelle de manger et retrouve une confiance en elle, donc confiance dans ses sensations. J'ai faim, je mange, je sais m'arrêter de manger, je suis connectée à se reconnecter à son corps. Alors après, il y a des chose dont on ne peut pas parler, mais il y a des personnes qui sont complètement coupées de leur corps pour tout un tas de raisons, des fois très complexes, de traumatismes, etc. Mais, donc,
oui, quand c'est des raisons psychologiques et ou psychiatriques,
donc
c'est
un autre travail.
On le rappelle.
Mais d'essayer de se reconnecter à ça, de manger avec un peu plus d'attention. Après, il peut y avoir le fait de vouloir varier son alimentation, et donc là, il peut y avoir des aspects d'organisation, etc., pour essayer, qu'est-ce qui peut aussi diminuer la charge mentale. Après, il y a des personnes qui ont un peu envie de perdre du poids ou arrêter de grossir, mais qui sont aussi dans j'ai surtout envie de me vider la tête de toutes mes obsessions. Donc après, reprendre confiance en soi, reprendre confiance dans le fait que dans ses envies et que naturellement on mange de tout, ça libère de l'espace et pour mettre de l'énergie mentale dans plein d'autres choses importantes.
Donc il y a une grosse partie quand même cognitive aussi dans cette
disons
démarche.
Disons que quand je dis constater, comprendre, changer, consolider, dans cette phase de compréhension et de changement, il faut à mettre de la conscience dans ce qu'on fait, mais c'est de la conscience dans l'observation de ce qu'on fait, pas dans la conscience, faut manger ci, faut manger ça. Et après, la phase de consolidation qui n'a rien à voir avec la stabilisation des régimes, c'est vérifier qu'on a installé des habitudes qui conviennent et qui sont solides un petit peu dans
et qui sont différentes. Et faisables à long terme aussi, parce voilà, que c'est le long terme, comme le tu long terme. Le dis, hein, qui est important.
Voilà, c'est ça. C'est vraiment trouver une façon de manger qui conviennent et qu'on va pouvoir garder dans la durée.
Et qui aussi heureuse et heureux.
Mais j'ai vu qu'il y a des tonnes de questions, mais effectivement, ouais, on ne peut pas
c'est
répondre
peut-être
à tout.
Enfin, une deuxième partie à la rentrée, on ne sait pas, hein, tu vois, ou alors pendant les fêtes, je ne sais pas. Eurial, évidemment, et oui, exploser le compteur de YouTube, suivez, activez la cloche, suivez le compte YouTube d'Opost, parce que comme ça, Opost pourra prétendre à une aide financière de la Moula. Eh bien, merci Ariane. On a juste pour finir, est-ce que tu as des recos culturels ? Moi, je donne les miennes d'abord. Alors, en reco culture, j'ai ce livre de, je l'adore et je sais que tu l'adores aussi, Clémentine Hugol-Gential. Ce petit bouquin s'appelle Corps, alimentation et réseaux sociaux. Il coûte 10 euros. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est sur les représentations du corps, sur les médias sociaux. Notamment, on parle des adolescents, comment ça influence ce qu'on mange, la manière dont on se voit aussi. C'est vraiment un petit bouquin hyper clair.
Elle mène vraiment des travaux de recherche importants des ados. Comment arriver à changer un petit peu le rôle des réseaux sociaux là-dedans.
Et formidable livre aussi de Lorraine Malka qui s'appelle Mangeuse,
qui vient de sortir en poche.
Ouais, Les Pérégrines, et qui vient de sortir en poche chez Point. Vous savez, c'est les couvertures violettes où il y a plein de bouquins féministes notamment. Donc voilà, je vous conseille ce Mangeuse, histoire de celle qui dévore, savoure ou se prive à l'excès. Vraiment
génial,
formidable
bouquin.
Aussi. Et Téroco, ah oui, j'ai juste aussi deux comptes Instagram, Gras Politique qu'on adore, et Fatnographie qui vraiment est aussi très intéressant. Il y a beaucoup de contenu pédagogique aussi et c'est très politique.
C'est très important d'accepter que vous soyez grossophobe, parce que tout le monde est grossophobe, et de vous informer auprès de ces personnes-là qui expliquent toute chose. Il y a aussi mon gros podcast qui fait tout un travail aussi là-dessus.
Alors moi, Téroco à toi avant de dire au revoir à tout
mais
le monde.
Je plus sois complètement ces deux bouquins-là. Alors, il y a un bouquin qui date un peu, mais qui me paraît toujours pertinent pour comprendre cette pression qui est mise sur les femmes, qui est Beauté fatale de Mona Chollet. Quand
culte.
Même, c'est toujours d'actualité. Et puis, alors, un truc qui n'a rien à voir avec l'alimentation, mais on a quand même parlé pas mal de se reconnecter à soi, d'être attentive à ce qu'on ressent. Un bouquin d'un Canadien qui s'appelle Russ Harris, qui s'appelle Le piège du bonheur, qui est un livre qui vulgarise un peu ce qu'on appelle les thérapies ACT d'acceptation et d'engagement. Mais il y a plein d'exercices hyper concrets pour comprendre ce qu'on ressent, comprendre ce qui se passe dans la tête. Donc, on peut complètement appliquer ça à l'alimentation. Qu'est-ce qui se passe dans notre tête par rapport aux aliments ?
Un côté un peu TCC, thérapie comportementale
cognitive. Voilà, c'est disons la troisième vague des TCC.
D'accord.
Et donc, avec ce qui se passe dans la tête, nos émotions, puisqu'il est important pour nous. Et ça peut aussi compter dans le fait de vouloir perdre du poids, bien manger, faire du sport, d'essayer de clarifier effectivement pourquoi on le fait, qu'est-ce qui est important. Et c'est un bouquin hyper concret avec plein d'exercices qui s'appelle Le piège du bonheur, et il existe aussi en poche.
Ok. Et oui, Marie-Pierre qui dit que Lorraine Malka, l'autrice donc de Mangeuse, sera en dédicace à l'Académie du Climat avec plein de meufs de l'alimentation, ouais, dont Vérane Frédéric et Karine Jacquemart de Foodwatch, qu'on avait reçu.
Génial.
Pour le premier épisode de Bouzola. Effectivement, quelqu'un disait qu'il fallait, Anis Graffiti, il disait qu'il aurait fallu 3 heures, mais on peut faire une partie 2, il n'y a pas de problème si rien n'est d'accord.
Bien sûr.
Les liens sont dans l'article. Merci donc, pardon, du coup, je m'étouffe. Je m'étouffe. Merci beaucoup, Ariane.
Merci à toi pour ton écoute, et merci pour toute votre écoute, les questions. C'était super, et vraiment dommage qu'on ne puisse pas répondre à tout.
Ouais. Merci, David Dufresne, pour cette première saison de Bouffe de là. On se revoit à la rentrée. Merci, Eurial, comme d'habitude. Super Eurial dans le chat. Merci, Nayan, à la réalisation. Il est là. Coucou. Merci beaucoup. Merci à tous les opostiens en postienne qui étaient là aujourd'hui, mais aussi à toutes celles et ceux qui suivent Bouffe de là vraiment depuis le début. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos messages. Je suis très contente de faire cette émission. Je suis très contente qu'elle vous plaise et qu'on y apprend tous et toutes plein de trucs. Abonnez-vous, n'hésitez pas. Merci beaucoup, et on se retrouve à la rentrée. Passez, j'allais dire, un bel été. Passez un été, déjà. Hein, on verra s'il est bien, s'il est beau, s'il est sympa. On fait comme on peut. Et bonne journée à tout le monde.
Les amis, nous sommes sur opost.fr. Abonnez-vous, les amis, c'est David Dufresne. Abonnez-vous, c'est important. Bon, la technique, c'est pas toujours ça, c'est artisanal, on est entre nous, c'est au poste, opost.fr.
Attention, oui. Ça va être dans le clip.
Postez-vous l'abonnement. Non, abonnez-vous au poste.
J'encourage, faites un don à au poste. Ah non, c'est là la caméra.
Adonnez-vous au poste. Adonnez-vous au poste.
Et faites des dons à au poste. J'espère que tout le monde dans le chat, que tout le monde ici fait des dons à au poste. Il faut donner
des
l'argent
dons,
pour que ça existe.
Amis du café, amis de la police, adonnez-vous au poste.fr. Au poste.fr. Adonnez-vous.
On vous remercie tous pour vos dons, c'est cool.
Désarmer le récit, c'est important. Ça passe par quoi? Ça passe par muscler les médias indépendants. Voilà, soutenir au poste.
Abonnez-vous!
Donnez plein d'argent.
Il a raison, abonnez-vous à au poste et à Mediapart, aux deux.
Abonnez-vous!
N'oubliez pas, on a besoin de dons et de donateurs. Merci beaucoup.
Au poste.fr, il n'y a pas mieux.
Ah, on se moque de moi là. Bompard soutient au poste, mais devant la mauvaise caméra. Celle-là, elle est bonne ou pas? Faites un don à au poste, faut pas que ça soit qui reste. Donc je disais, il faut bien que vous provoquiez du débat, faut provoquer du sujet, pour provoquer du sujet, faut créer de la conflictualité.
Mais comment je vais rester indépendant si Bompard il demande aux gens de faire un don?
Oh, ouais, c'est vrai ça.
Tout ça n'existe que grâce à vous, parce qu'on est indépendant et on ne vit que grâce aux dons. Donc voilà, merci.
Et abonnez-vous.
Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.
Bravo. Bravo. Abonnez-vous au poste.fr, au poste.fr.